bonsoir. On ne va pas respecter le quart d'heure Poitevin. Il est 35. On est 5 minutes en retard. Venez nous le pardonner. Et dans tous les cas, un très grand merci à vous toutes et à vous tous de vous être déplacés nombreux, nombreuses ce soir. Et ça nous console quand on repense à une certaine soirée verglacée où Bruno Py avait eu l'obligeance de nous donner un cours particulier sur un sujet voisin de celui qui va être traité ce soir. Alors, ce n'est pas une clause de style, ce n'est pas une figure imposée, mais comme il se trouve que nous avons dépassé les 5 ans de partenariat entre l'espace Mendès France qui nous accueille ici et l'ADMD, c'est une occasion qui m'est offerte, pendant qu'il en est encore temps, de remercier d'une part le directeur Didier Moreau, sa collaboratrice Christine Guiton qui est en charge des conférences et toute l'équipe d'une manière générale de l'espace Mendès France pour leur hospitalité, la qualité de l'accueil, l'organisation et l'opportunité qu'ils nous ont offert depuis tant d'années de pouvoir au cœur même de Poitiers offrir des occasions de conférences, vous le verrez ce soir à nouveau, de très haut niveau, très bon niveau, et de faire connaître ainsi à d'autres personnes que les membres de l'association ADMD les raisons de notre, j'ose employer le mot, de notre combat pour le droit de mourir dans la dignité. C'est très curieux qu'il faille militer et se battre pour obtenir ce droit-là, qui semblerait un droit naturel, n'est-ce pas ? Mais apparemment, il le faut, parce qu'en France, contrairement à un certain nombre de nations voisines, contrairement aux Pays-Bas, contrairement à la Belgique, contrairement au Luxembourg, contrairement à la Suisse, enfin j'arrête la liste, on n'est pas propriétaire de son propre corps, et en particulier quand on est en phase terminale d'une maladie grave, incurable, douloureuse, ou encore quand on est muré dans un état insoutenable de dépendance, on n'a pas le droit, contrairement aux citoyens de ces autres pays-là, n'est-ce pas, de bénéficier d'une fin de vie qui soit décente au point de vue des conditions dans lesquelles elle aura lieu, c'est-à-dire qu'on soit assisté médicalement pour partir dans des conditions décentes au moment où on y tient et où on sait que c'est inéluctable de toutes les façons. Enfin, on dira deux mots, et je crois que c'est surtout le professeur Py qui insistera beaucoup, sur les perspectives nouvelles qui s'ouvrent. Les perspectives nouvelles, on va quand même en dire deux mots parce que l'ADMD n'y est pas étrangère. L'ADMD a pu maintenir, alors dans la Vienne c'est particulièrement vif depuis 6 ans, c'est sûr, mais au niveau national l'ADMD existe depuis 30 ans, a pu maintenir vivante l'idée que nous devions nous battre pour obtenir ce droit que nous n'avons toujours pas, n'est-ce pas ? Eh bien, l'heureuse conjonction de ce combat-là, y compris de la participation locale depuis quelques années. Et disons-le clairement, les changements politiques qui ont eu lieu dans ce pays, la promesse numéro 21 du candidat François Hollande de faire aboutir une loi ouvrant le droit à mourir dans la dignité, le changement de majorité et l'élection de ce président ont remis à l'ordre du jour le fait que nous obtenions cette loi. Il y a eu des avatars, il y a eu la nomination d'une mission dite SICAR, n'est-ce pas, que nous savions, nous, composer 8 membres sur 9 de personnes et de personnalités opposées à toute légalisation. C'était un avatar. Quand le 18 décembre, le rapport a été connu, on a pu vérifier que nos craintes étaient fondées. Ce qui nous a rassurés par la suite, j'abrège, ça a été tout de même, et nous en avons les preuves, puisqu'il y a même un courrier signé du directeur du cabinet de François Hollande qui fait état de ce projet, sous réserve d'être soumis au comité consultatif national d'éthique, un projet de loi serait soumis dès le mois de juin 2013, malgré l'opinion défavorable de la mission SICAR, mais disons-le tout de suite, qui serait limité, enfin c'est une brèche de taille si jamais ça aboutit, qui serait limité à un droit à l'assistance médicale au suicide pour seule situation justifiée, fin de vie douloureuse, maladie incurable, etc., et dans le seul cas de patients autonomes, c'est-à-dire valides et conscients. Alors, au cours des débats qui suivront l'intervention du professeur Pi, nous pourrons, je pense, débattre entre nous du caractère, à nos yeux, insuffisant d'une telle loi, tout en reconnaissant que si jamais elle était tout de même adoptée, il y a tout de même 30 ans que nous l'attendons, depuis la création de la DMD, et il faudrait quand même qu'on salue la brèche qui aura été faite. D'autant plus que quand une brèche est faite, il est toujours possible de l'élargir, alors que quand le mur de béton est toujours dressé devant nous comme il l'a été jusqu'à la dernière législature incluse, évidemment, c'est un peu plus difficile. Bon, vous savez, je suis en train de verser dans le défaut classique de tous les présentateurs de conférenciers, c'est-à-dire que frustrés, n'est-ce pas, de ne pas faire eux-mêmes la conférence, ils prennent la parole à la place du conférencier. Ce serait dommage dans le cas de Bruno Pi, parce que non seulement il est meilleur conférencier que moi, mais il connaît le sujet infiniment mieux que moi. Et j'ajouterais que moi, si j'ai le privilège de le connaître depuis une vingtaine d'années, j'ai eu cette chance-là. Poitiers a la chance de l'avoir comme professeur d'université de droit privé, mais avec comme grande spécialité personnelle le droit de la santé. Il n'y en a pas un très grand nombre en France. Alors j'ai l'habitude de regarder les dossiers universitaires, mais quand j'ai vu que dans les 5 dernières années, il avait déjà une quarantaine de publications, n'est-ce pas ? Je ne vais pas vous vanter les mérites de cet universitaire. Je vais vous dire simplement que j'ai eu mon attention attirée par le fait qu'il a dirigé l'ouvrage intitulé « La mort et le droit » et qu'il y a rédigé notamment un article dont le titre m'a interpellé, comme on dit en jargon actuel, « Le médecin et l'agonie ». Et comme l'ADMD milite justement pour que l'agonie cesse d'être un passage obligé en fin de vie, je crois qu'on ne pouvait pas rêver d'un meilleur conférencier que Bruno Pi, et moi je le remercie d'avoir fait tous les trajets Nancy, Poitiers notamment, que ça lui coûte, et d'avoir accepté de faire à nouveau une intervention auprès de vous tous, auprès de nous tous. Merci Bruno, merci sincèrement.
Mesdames, Messieurs, cher Maurice Gommel, comment prendre la parole après une telle présentation ? Vous avez mis la barre très très haut, vous m'avez mis sur les épaules une pression énorme. Je commence à parler comme un footballeur, ça devient grave un lendemain de match de foot. Heureusement que ce n'était pas aujourd'hui, sinon il n'y aurait personne dans cette salle. Je voudrais remercier l'ADMD de la Vienne d'avoir eu l'idée d'organiser une deuxième fois dans cette salle et dans cet endroit une séance de réflexion commune, parce que c'est plutôt comme ça que je vois les choses. J'essaierai d'apporter un certain nombre d'éléments, mais il me semble que l'intérêt du thème que nous allons aborder ce soir ne peut pas reposer sur une seule analyse, mais sur la confrontation et l'ajout des points de vue complémentaires des uns et des autres. Ce thème que vous avez choisi fait allusion, bien évidemment, à mon métier d'enseignant et de chercheur en droit. Je vais donc essayer de vous brosser le paysage juridique applicable aux questions de fin de vie. Que dit le droit au sujet de la fin de vie ? En introduction, j'essaierai de partir de l'aspect historique, non pas seulement par goût, mais parce que cela fonde, cela explique où nous en sommes arrivés ces dernières années. Et puis ensuite, eh bien, après avoir vu d'où nous venons, je voudrais, dans les 45-50 minutes qui me sont imparties, pour qu'on ait un temps de débat et d'échange par la suite, eh bien, voir, selon un plan assez classique, d'abord le droit tel qu'il fonctionne, ce qu'en latin on appelait « délégué lata » sur le plan du droit qui fonctionne aujourd'hui, et dans une deuxième partie, délégué ferenda sur le plan du droit à venir, du droit de demain, du droit tel qu'il peut évoluer. Voilà un petit peu comment je pense structurer mon propos aujourd'hui, d'où nous venons historiquement, comment fonctionne et quel est ce droit applicable aux règles de la fin de vie aujourd'hui, et puis comment et dans quel sens est-ce que les choses peuvent évoluer. Voilà le programme, le menu que je vous propose de développer oralement. Avec, après les remerciements d'usage, un mot d'excuse de ma part, un mot d'excuse lié à l'aspect formel des choses. Et là, c'est bien sûr la technique qui est intéressée. Je n'aurai pas de PowerPoint, je n'ai pas d'ordinateur et je ne vous projetterai pas de diapositive. Ça n'est pas exclusivement parce que je n'ai pas l'aisance technique pour pouvoir me servir d'un ordinateur, mais par volonté explicite de ne pas rentrer dans ce formatage qu'est le système PowerPoint. Certains d'entre vous l'utilisent peut-être régulièrement. Pour travailler souvent avec des médecins, je les vois tous présenter aujourd'hui des diaporamas PowerPoint, à tel point que cela influe sur la manière de s'exprimer, de structurer son raisonnement et de penser. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais pour ma part, je n'aurai pas de PowerPoint à vous présenter. Donc, commençons par un aspect historique, si vous le voulez bien. La mort et le droit, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le droit ancien, dans l'histoire du droit, comme pilier fondateur de notre législation contemporaine ? Eh bien, je ne reviendrai pas au droit romain et au droit antique, mais je me contenterai de faire une petite allusion au Moyen-Âge français, qui nous dit deux choses au sujet des règles de droit, au sujet de la mort. Au Moyen-Âge, deux aspects intéressants sont traités par les juristes. Il y a bien sûr la peine de mort, qui est à l'époque d'usage très courant. Et quand je dis d'usage, ce devrait être des usages au pluriel, puisque à l'époque, la peine de mort est infligée pour différentes raisons, pour différents types de crimes, mais surtout selon des modalités techniques extrêmement différentes. On a les roturiers qui sont pendus, les nobles qui sont décapités, puis des variantes avec des écartèlements, avec des gens ébouillantés, écorchés. Il y a une violence institué, organisé par le droit dans la réalisation de la peine de mort, qui nous paraît aujourd'hui particulièrement barbare. Mais bien évidemment, ce n'est pas l'aspect qui nous intéresse le plus. Ce qui est plus intéressant dans le droit médiéval concernant la mort, c'est une autre logique qui est celle concernant la problématique du suicide. En effet, les historiens montrent que le Moyen-Âge connaissait de nombreux cas de suicide, en particulier par deux modalités les plus répandues et dont on a beaucoup de traces, qui différencient les hommes et les femmes. Très peu de suicides par arme à feu, parce qu'à l'époque, il y a très peu d'armes à feu. Mais les deux modes de suicide très courants dans les campagnes, pour les femmes, c'est la noyade, en particulier le fait de se jeter dans un puits. On a beaucoup de faits relatés, attestés de noyades volontaires. Et pour les hommes, c'est régulièrement la pendaison volontaire. Or, le droit médiéval, qui est inspiré et organisé d'une part par le système monarchique, c'est la justice du roi, toute justice émane du roi, mais aussi par la confusion du pouvoir législatif avec l'inspiration religieuse, puisqu'à l'époque, on a un droit qui est construit sur un mode de droit divin, c'est-à-dire que le droit du Moyen-Âge est produit par le roi, mais qui a lui-même le lien direct avec Dieu, qui lui souffle à l'oreille les grandes règles à mettre en musique, mettre en loi, et le droit est produit par le roi avec le double sceau de la monarchie et de l'Église. Eh bien, le suicide rentre en contradiction, en transgression, à la fois avec les intérêts du roi et les intérêts de l'Église. Le suicide est donc, tout au long du Moyen-Âge, un crime, une infraction pénale, puisque le suicidant porte atteinte à la fois à son roi et à son Dieu. Il porte atteinte à son roi en le privant d'un sujet, en le privant d'un soldat, en le privant d'un contribuable, ce qui est une atteinte au droit monarchique et à Dieu, puisque dans la logique catholique, bien évidemment, en vigueur à l'époque, au travers des règles de droit, eh bien, le droit de vie ou de mort appartient à Dieu. L'homme n'est qu'usufruitier de son corps. S'ériger en décideur, c'est rentrer en concurrence avec le Créateur. C'est donc infractionnel. Alors, me direz-vous, mais quel est l'intérêt de cette précision ? Et d'abord, comment est-ce que concrètement, ça s'applique, le fait que le suicide soit en soi une infraction pénale très grave ? Eh bien, première hypothèse, quand l'individu réussit son suicide. Au Moyen-Âge, un individu est retrouvé mort au fond d'un puits ou au bout d'une corde. Eh bien, à l'époque, première réaction sociétale, fondée sur le droit, eh bien, on lui fait un procès. On fait un procès aux morts. Chose qui nous étonne aujourd'hui, mais à l'époque, on n'hésite pas à faire un procès aux fous, à l'enfant en bas âge, aux animaux, et aux choses, y compris aux morts. On fait un procès aux morts, on nomme un curateur au cadavre qui va devoir parler, s'exprimer, se défendre. On fait un procès aux morts. Bien, à la limite, me direz-vous, peu importe, il n'est plus là. Mais qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce qu'on peut prononcer comme sanction par rapport à cette situation infractionnelle? Eh bien, à l'époque, on va pouvoir condamner le suicidé avec deux conséquences fondamentales. Première conséquence, on va pouvoir le priver de sépulture chrétienne et interdire même les opérations d'inhumation. Son corps ne pourra pas être enterré, ce qui est une sanction symbolique qui a pour but d'effrayer la population. On va suspendre son corps à des fourches patibulaires ou dans un arbre et on va laisser les éléments jouer leur rôle, caractère dissuasif de la chose. Là encore, pour ceux qui n'ont pas l'âme trop sensible, eh bien, qui ne sont pas trop sensibles à la question de l'âme, vous pouvez retourner la phrase, eh bien, son corps est exposé aux éléments, soit. Mais la deuxième sanction est beaucoup plus intéressante, c'est que si l'individu s'est tué et que c'est démontré en justice, la condamnation va entraîner confiscation de son patrimoine, confiscation générale, au bénéfice du roi. On confisque tout son patrimoine. Ce qui veut dire que c'est la catastrophe pour ses proches. Parce que quand, et ça arrive, on retrouve le grand-père pendu dans la grange, eh bien, à l'époque, la famille va tout faire pour essayer de cacher la cause de la mort. On va le dépendre, on va le mettre dans un lit, on va mettre un foulard autour du cou, on va cacher les choses, camoufler, pour essayer de parler d'apoplexie, de morsure de vipère ou de ce que vous voulez. Parce que si jamais, vox populi, si l'entourage, si le lieutenant criminel apprend que c'est un suicide, alors c'est la catastrophe, l'infamie, le procès et la confiscation, donc la ruine. Et si l'individu ne réussit pas et n'a que tenté de se suicider, alors on arrive au paradoxe du système médiéval français, celui qui a tenté de se suicider sans réussir son suicide, si on l'apprend, on va le poursuivre pour tentative d'homicide, il va comparaître devant la justice criminelle, et à quoi peut-il être condamné dans le pire des cas ? À la peine de mort. À la peine de mort. C'est-à-dire que le système médiéval est construit sur un modèle de raisonnement qui est étonnant, c'est que le droit, pour reprendre l'expression évoquée en introduction, de vie ou de mort, n'appartient jamais à l'individu, appartient au roi, appartient à l'Église, qui sont tous les deux d'accord pour pouvoir infliger la peine de mort à certains, mais jamais à l'individu qui ne peut pas décider de son sort. C'est la logique médiévale et elle est importante parce qu'on va voir qu'il y a encore quelques petites résurgences qui peuvent éventuellement transparaître dans le droit contemporain. La Révolution arrive sur ces entrefaites, 1789. Parmi les apports juridiques de la Révolution, ils sont nombreux, il y a en particulier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Cette déclaration, qui est courte, que l'on voit exposée régulièrement, elle n'a que 17 articles, comporte en particulier un article disant que la loi ne peut interdire que ce qui est nuisible à la société. La loi ne peut interdire que ce qui est nuisible à la société. Et c'est sur la base de cet article que le Code pénal français va abandonner la répression des actes contre soi-même. Le suicide disparaît du code pénal, n'est plus une infraction pénale à partir de la Révolution. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Lorsque quelqu'un se suicide, ça n'est pas une infraction. De toute façon, on ne fait plus de procès, on ne fait plus de procès aux morts depuis la Révolution. Et quand quelqu'un tente de se suicider, ça n'est pas une infraction en droit pénal français. On n'a rien à lui reprocher, sauf une exception qui est dans le code de justice militaire, sauf si c'est un soldat qui le fait pour ne pas aller à la guerre, où on peut lui reprocher éventuellement de se soustraire à ses obligations. Mais c'est marginal. C'est important parce que cela veut dire que l'émergence des droits de l'homme au sens de la déclaration de 1789 va être un premier pas, une première étape fondamentale pour reconnaître aux individus un droit lié à ce statut nouveau qui naît, c'est-à-dire le droit de l'homme, quel qu'il soit, homme ou femme d'ailleurs, qui soit un droit inhérent à la personne, au sens juridique, la personne physique, a des droits, parmi lesquels la possibilité éventuellement de recourir au geste fatal concernant soi-même, à l'homicide de soi-même, c'est-à-dire au suicide. Passons les étapes pour arriver assez rapidement à notre premier point important, Je passe sur le 19e siècle qui n'apporte pas énormément de choses, si ce n'est au carrefour des années 1850, où il va y avoir en 5-6 ans trois grandes lois importantes sur l'homme et son corps, l'homme et la vie de manière générale. La première loi, c'est 1848, abolition de l'esclavage, loi qui va pour la première fois, il faut 50 ans après la Révolution pour en arriver là, mais affirmer qu'il n'y a plus de hiérarchie entre les êtres humains et donc de hiérarchie des droits entre eux. C'était important et c'est 1848 qui va le faire. 1854, la loi qui va supprimer une dernière référence à un principe médiéval, c'est la suppression de la mort civile. La mort civile, c'était quoi ? La mort civile, c'était une sanction pénale qui consistait pour un individu qui avait commis des crimes à être condamné non pas à la mort physique, ça, c'était encore possible, ça durera jusqu'en 1981, non pas à être exécuté, mais c'était juste en dessous, dans la sévérité des peines. C'était un individu qui allait être emprisonné à vie, mais frappé de la mort civile jusqu'en 1854. On lui faisait perdre tous ses droits et tous les attributs de sa personnalité juridique, c'est-à-dire que l'individu était juridiquement déclaré mort. On dressait un acte de décès, mort juridique. À partir de là, il perdait son nom, son prénom, bien sûr son domicile, c'était la prison, mais surtout, on liquidait sa succession. Il était, bien que biologiquement vivant, considéré comme mort par le système juridique, par le système étatique. C'était une sorte de fiction, mais c'était une sanction assez impressionnante qui avait un certain nombre d'effets pour les proches, la succession, la libération du conjoint qui pouvait se remarier, etc. etc. 1854, c'est supprimé. Au passage, entre 1848 et 1854, une autre loi qui n'est pas directement liée, mais qui mérite d'être citée, loi de 1850, la loi Gramont, c'est la loi qui, pour la première fois, reconnaît en France qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les animaux et qui sanctionne les actes de cruauté et de sévice envers les animaux. Et pourquoi je la cite ? Parce que c'est intéressant, il y a des périodes dans l'histoire où la société se préoccupe d'un certain nombre de choses. C'est assez étonnant qu'entre 1848, fin de l'esclavage, 1850, loi Gramont, 1854, fin de la mort civile, ça soit la période où la société véritablement remet en cause ces hiérarchies qui existaient entre les êtres vivants pour juridiquement mettre les choses de manière homogène, à plat, à ce sujet. Là encore, il faut avancer rapidement, sinon on va rester sur le plan historique et ça serait quand même dommage. Arrivent les grandes lois au carrefour du 19e et du 20e siècle qui sont importantes pour nous au moins sur un point, la loi de 1887 sur la liberté des funérailles, loi qui est fondamentale, 15 novembre 1887, parce qu'elle ne parle pas de la mort, elle parle du statut post-mortem, les funérailles, et elle va promouvoir à ce moment-là la liberté des funérailles en disant deux choses qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Un, chacun peut librement décider de son mode de sépulture, à savoir ou inhumation ou crémation. C'est important parce que c'est une loi de combat à l'époque, combat entre qui et qui, combat entre les laïcs et les religieux. Vous savez que les religieux sont extrêmement attachés à l'idée de sacralisation du vivant, mais aussi de la dépouille mortelle au travers de rituels et en particulier d'inhumation. La crémation est obtenue de haute lutte à l'époque comme une forme nouvelle de liberté. On peut choisir l'inhumation, on peut choisir la crémation, des obsèques laïques ou des obsèques religieuses. Liberté des funérailles, premier point acquis en 1887 et qui n'a pas bougé depuis. Et surtout, deuxième point fondamental, qui va être là encore déjà annonciateur d'un certain nombre d'évolutions qui nous amènent à notre débat d'aujourd'hui, c'est que la liberté des funérailles exprimée par un individu doit être respectée. Les dernières volontés d'un individu quant à sa dépouille, à son cadavre, et aux rituels qui peuvent ou non assortir sa sépulture, sont respectés, doivent être respectés par tout le monde, sous peine de sanctions pénales. C'est une infraction pénale dès 1887 de trahir les dernières volontés d'un mort quant à son corps et quant aux funérailles. Et là encore, c'est un épisode d'illustration de l'autonomie de la volonté de l'individu par rapport à sa vie. Depuis la Révolution, il peut éventuellement se tuer sans encourir de foudre juridique. En 1887, il peut décider de son sort, du sort de son cadavre après la mort. C'est une étape de plus. Je passe sur un certain nombre d'autres lois. 1976, je passe de nombreuses étapes. 1948, premier don d'organes post-mortem, les dons de cornée et l'organisation législative de la possibilité de léguer ses cornées après sa mort. Loi 76, et j'aurai un mot pour la mémoire du sénateur Caillavé qui nous a quittés il y a une quinzaine de jours, qui a été pendant très longtemps un des piliers, je crois qu'il est fondateur de la DMD, et qui a surtout été toujours à la pointe sur ces questions de liberté de l'individu par rapport à son corps, à sa santé, à sa vie. Eh bien, le sénateur Caillavé est à l'époque à l'origine de la proposition de loi organisant le don d'organes. C'est là encore une autre illustration de l'autonomie de l'individu par rapport à son corps et à sa vie. Et puis, on en arrive aux grandes questions contemporaines, et je vais parler bien évidemment rapidement des lois de 2002, 2005 et des prolongements. Mais au préalable, je voudrais, pour faire la transition entre cet aspect historique et cette période contemporaine, eh bien, resituer le point de vue du côté du médecin. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé du médecin. Le médecin est depuis très longtemps confronté bien évidemment à la question de la mort, et on pourrait revenir, on n'a pas le temps, mais sur Hippocrate, 4 siècles avant Jésus-Christ, qui déjà, dans ses traités, dans la partie qu'on a retrouvée des traités d'Hippocrate, eh bien, a de nombreuses pages sur le constat de la mort, les signes cadavériques, ce qui permet de différencier celui qui est inconscient de celui qui est déjà mort, etc. Il y a plus de 2400 ans, une vraie réflexion avec la science de l'époque sur qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que le processus de la mort, comment le constater, etc. Si l'on prend le point de vue scientifique médical, les médecins confrontés aux faits de mort, au phénomène de la mort d'un individu, pendant des millénaires, de Hippocrate jusqu'à la toute fin du XXe siècle, le médecin était confronté à trois hypothèses confrontées à l'agonie, ce mot que j'ai utilisé et qui a été repris tout à l'heure, c'est-à-dire face à une période qui est en toute fin de vie, qui est à l'article de la mort, disent les littéraires, à l'article de la mort, face à celui qui va mourir, le médecin avait trois choix possibles. Pendant longtemps, il n'a eu que ces trois choix qui faisaient une sorte de triangle qui était infernal parce que sur le plan du droit, chacun des trois choix posait problème. Premier choix pour le médecin, et la question se posait depuis très longtemps, puisque l'individu est médicalement à l'article de la mort, qu'il va mourir, premier choix, le tuer. Lui donner des produits qui vont accélérer le processus mortel. Ce choix était un mauvais choix sur le plan du droit, puisque le droit prohibe depuis toujours l'homicide d'autrui, peu importe les mobiles, tuer autrui et reste une infraction pénale. Donc le médecin est... On a des traces de débats, de conflits de conscience de certains médecins face à celui qui est dans cette phase ultime. Le médecin qui commettait ce geste de donner un médicament, un produit qui accélérait le processus mortel, commettait le crime d'homicide. Donc, mauvais choix. Deuxième choix possible, le médecin pouvait éventuellement être tenté de dire « j'ai pas le droit de tuer, donc je vais continuer mon boulot comme avant, je vais continuer à soigner de manière ordinaire, alors même que je sais scientifiquement que ça n'a aucune utilité et que ça n'aura aucune efficacité, puisque l'individu est médicalement condamné, il est en train de mourir, ben, je vais faire comme si de rien n'était, je vais continuer à le soigner. » Mauvais choix, pourquoi ? Parce que la légitimité de l'action du médecin sur le corps des malades est fondée sur ce critère d'utilité. Un médecin ne peut prescrire un médicament, faire un geste, que dans la mesure où ce geste a pour perspective d'avoir une utilité thérapeutique directe pour le soigné, pour le bénéficiaire. Donc, s'il n'y a pas d'utilité ou plus d'utilité, l'acte n'a plus de légitimité juridique. Il s'agit d'un acharnement thérapeutique qui est pénalement sanctionnable. Il l'est depuis toujours. On pourra y revenir s'il y a des questions sur ce point. Le médecin ne pouvait pas tuer, c'était un crime. Il ne pouvait pas s'acharner quand il n'y avait plus d'utilité. C'était un acharnement et donc des violences volontaires. Troisième tentation, puisqu'il ne peut pas tuer, puisqu'il ne peut pas continuer à traiter, il pouvait être tenté d'abandonner le malade et lui dire « Écoutez, je ne peux pas vous tuer, je ne peux pas vous soigner, allez mourir chez vous, débarrassez ma salle d'attente, débarrassez mon service. » Eh bien là encore, troisième choix mauvais sur le plan du droit, puisque le code pénal interdit, sous l'appellation d'omission de porter secours, le fait de ne pas porter assistance à une personne en péril. Une personne qui est en péril, le péril étant un risque vital imminent, c'est une personne à qui il faut porter secours. Obligation de porter secours, ne pas le faire, ne pas porter assistance, est une infraction d'omission, une infraction par cette inaction, on se met en contradiction avec le code pénal. Inaction qui tombe sous le coup de l'article 223.6 du code pénal, peu importe les textes, qui peut frapper un médecin qui refuserait de porter secours à une personne en péril. Le péril pouvant être un péril physique, mais aussi, a été jugé par la Cour de cassation, un péril sur le plan purement moral et psychologique. En effet, il s'agissait d'un épisode, je ne sais pas si j'ai... Non, je n'aurai pas le temps de le dire. On y reviendra s'il y a des questions. Je fais un exposé à grandes enjambées, à grands traits, et puis on reviendra sur les points qui vous intéressent. Le médecin ne pouvait pas tuer. Il ne pouvait pas s'acharner, il ne pouvait pas abandonner, et il se confrontait aux trois pointes de ce triangle infernal, puisque, eh bien, vers quelque issue qu'il se tourne, forcément, sur le plan du droit, ça posait problème. Tuer, infraction d'homicide, continuer à traiter, comme d'habitude, acharnement, et abandonner, omission de porter secours. Il n'arrivait pas à sortir de cette situation inextricable. À la fin du XXe siècle, on a cru avoir trouvé la sortie, la panacée qui allait enfin permettre de sortir de cette situation dramatique. C'est l'émergence des soins palliatifs. L'émergence des soins palliatifs a laissé penser qu'on avait trouvé enfin la quadrature du triangle. Je parle sous contrôle d'un scientifique, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais enfin, une quatrième possibilité, les soins palliatifs permettant, vous le savez beaucoup mieux que moi, d'une part, de ne pas tuer, mais de se focaliser sur la douleur, le soulagement de la douleur avec tous les moyens de la pharmacopée moderne. Ne pas s'acharner sur la pathologie principale, mais prendre en charge, et c'est bien des soins dont il s'agit, toutes les pathologies secondaires. Et surtout, ne pas abandonner, ni sur le plan physiologique, ni sur le plan psychologique et humain, en ayant à la fois des professionnels, mais aussi des bénévoles dans l'accompagnement au niveau des soins palliatifs. Donc, pendant quelques temps, on s'est dit, super, quand je dis « on », les médecins, les juristes, les politiques, les associations, les familles, tout le monde s'est dit, pendant cette période, on va dire, de 1990 à 2000, on s'est dit, ça y est, on a résolu le problème. Sauf que, eh bien, après cette période où tout paraissait rose et résolu, eh bien, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de drames humains n'étaient pas gérés par la question des soins palliatifs, qui pouvaient être effectivement une solution pour un certain nombre de milliers de nos contemporains, qu'il fallait encourager, avec la dimension d'ailleurs économique, financière, qui d'ailleurs coûte très très cher. Au passage, je rappelle que tous les économistes de la santé sont unanime sur une donnée, chacun d'entre nous coûtera à la sécurité sociale le plus cher lors des 6 derniers mois de sa vie. C'est là que chacun d'entre nous coûtera à la sécurité sociale le plus, c'est les 6 derniers mois de sa vie. D'où la tentation purement économique de dire, si chacun de nous mourait 6 mois plus tôt, le fait qu'on résoudrait une bonne partie des problèmes de financement de la sécu. Je vous laisse réfléchir, je ne suis pas économiste, je suis juriste, je reviens au droit. Sur la question du droit, pourquoi et quelles sont les affaires qui ont permis de montrer, en tout cas médiatiquement, que la question des soins palliatifs ne permettait pas de résoudre tous les cas? Eh bien, je voudrais évoquer, et là on rentre bien dans la période contemporaine, l'affaire Vincent Imbert, l'affaire Diane Preti et l'affaire Terry Schiavo. Trois affaires, une en France, une en Angleterre, une aux États-Unis. Ces trois affaires, eh bien, vous les connaissez forcément, vous les avez lus, vous les avez entendus commenter. L'affaire Vincent Humbert est malheureusement très simple. Vincent Humbert est un jeune homme sportif, pompier volontaire, en pleine force, en pleine vigueur, qui est malheureusement victime d'un accident de la route. Il est fauché sur un passage protégé par un chauffard qu'on ne retrouvera jamais d'ailleurs. Et il est polytraumatisé à un point tel qu'il est totalement et de manière irréversible privé de toutes ses fonctions motrices, toutes puisqu'il ne peut plus mobiliser que quelques doigts d'une main et ses yeux. L'ensemble de ses fonctions physiologiques est définitivement aboli. Et donc, par contre, sur le plan cérébral, il est bien évidemment complètement lucide, son discernement n'étant rien affecté. Vincent Humbert, qui est pris en charge sur le plan médical dans le centre héliomarin de Berck-sur-Mer, est un jeune homme intelligent, lucide, communiquant avec sa maman, Marie Humbert, à qui il va, après de nombreuses réflexions, dicter un bouquin célèbre que vous connaissez, qui est « Je vous demande le droit de mourir », qu'il adresse au président de la République de l'époque, M. Jacques Chirac. Jacques Chirac, qui va lui répondre que, bien dans l'état actuel du droit français, après avoir eu quelques phrases bien sûr très compassionnelles pour Vincent Humbert, dans l'état actuel du droit français, eh bien, désolé monsieur Humbert, mais on ne peut rien pour vous dans notre législation. On est là en 2000-2001, je ne sais plus exactement, mais on retrouvera facilement les dates. En effet, en France, eh bien, la loi ne permet pas de répondre à la demande de quelqu'un qui souhaite qu'on lui donne la mort. C'est une infraction pénale que de tuer autrui, quels que soient les mobiles, et c'est ce que lui répond sommairement Jacques Chirac. Il se trouve que, à l'époque, ça a été évoqué en introduction par Maurice Gommel, les choses bougent dans deux pays proches et à l'intérieur de l'Union européenne, d'abord en Hollande en 2001, puis en Belgique en 2002, puis un peu plus tard au Luxembourg, où des législations sont votées permettant, avec des périmètres légèrement différents, mais globalement permettant l'acte euthanasique, l'acte d'homicide volontaire sous réserve d'un certain nombre de conditions de la prise de décision et de l'exécution de l'acte. En France, forcément, au siècle de la communication et de l'Internet, certains, et bien évidemment l'ADMD qui porte ce message, eh bien, interrogent les politiques et vont essayer de faire avancer de faire bouger les lignes, de faire avancer le dossier d'une modification de la législation sur la question de l'euthanasie. Il se trouve qu'à ce moment-là, en France, il y a une loi qui est en préparation sur un domaine beaucoup plus général, qui est la question des droits des patients. Cette loi, elle a été, enfin, la réflexion en amont a été impulsée dès la fin 2000, par des états généraux de la santé, sous la houlette de Claude Évin. Il va y avoir 18 mois de réflexion. On aborde tout de manière extrêmement démocratique, avec trois séances plénières, des contributions d'associations de patients. Il y a une volonté de fabriquer les lois de manière autre, et pas seulement entre technocrates dans un bureau, mais en associant la population. On arrive au vote de la loi, qui deviendra la loi du 4 mars 2002, loi du 4 mars 2002, qui s'intitule « Loi portant droit des malades, droit des patients et amélioration de la qualité du système de santé ». Et dans cette loi, il y a en particulier un article extrêmement important, qui est le fait que toute personne prend avec le professionnel de santé les décisions concernant sa santé. Et l'alinéa 2, je vous donnerai le texte si ça vous intéresse, c'est l'article 1111.4 du Code de la santé publique. L'alinéa 2 dit, si la personne exprime la volonté de refuser un traitement, alors on doit tenter de la convaincre de l'utilité du traitement. Si on y arrive, très bien. Et si on n'y arrive pas, eh bien, alinéa 3, aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Loi du 4 mars 2002, elle comporte plus de 100 articles, hein, mais cet article est essentiel. Nous allons voir qu'il est au cœur des réflexions encore actuelles. C'est un article qui marque la reconnaissance législative de l'autonomie de la personne. Aucun acte médical, aucun traitement sans le consentement libre et éclairé de la personne. C'est fondamental. On est en 2002, la loi est votée. Il se trouve que en 2002, on est en mars. En 2002, il y a des élections présidentielles. Ça arrive assez souvent en France, qu'il y ait des élections présidentielles. Et que, eh bien, ceux qui ont porté cette loi, qui, petite parenthèse, n'est pas une loi partisane, puisque la loi du 4 mars 2002 a été votée à l'unanimité de l'Assemblée, moins deux abstentions, je crois. C'est-à-dire que, et c'est heureux, dans la plupart des grandes lois qui touchent à la santé en France, on fait exploser les clivages droite-gauche, les clivages politiciens. Les lois Caillavé, les lois Hurier, les lois de bioéthique, la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, puisque c'était lui ministre de la Santé, elles sont votées vraiment sans tenir compte du problème droite-gauche. La question du consentement éclairé, elle n'est pas de gauche ou de droite, c'est une question de société, et donc c'est important de le préciser. 2002, donc, loi du 4 mars 2002. Il se trouve que en France, à ce moment-là, et en particulier au cours de l'année 2003, arrive la médiatisation au sujet de l'affaire Imbert. Et surtout l'implication de deux députés qui vont s'emparer de cette affaire pour essayer de faire levier et faire bouger les lignes un petit peu dans la mouvance de ce qui s'est fait en Hollande et en Belgique. Ces deux députés, je crois que ils méritent qu'on cite leur nom. Il y en a, y a un homme et une femme. L'homme, c'est Gaëtan Gorce, qui était à l'époque député de la Nièvre, socialiste. Et une femme, Nadine Morano, députée UMP de Meurthe-et-Moselle. Deux députés qui sont très différents quant à leur parcours, à leur appartenance politique, un homme, une femme, etc. Ils ont pour point commun d'avoir connu dans leur entourage propre eh bien, des situations de fin de vie particulièrement douloureuses. Ils se rencontrent sur ce thème. Et ils vont décider ensemble de mobiliser les parlementaires. Et il se trouve que les journaux, comme on a en tâche de fond l'affaire Vincent Imbert et préoccupations concrètes autour du sort de Vincent Imbert, son bouquin, la réponse de Jacques Chirac, eh bien, les médias vont véritablement embrayer. Les deux députés vont être déclarés par je ne sais plus quel grand magazine, personnalité de l'année, on fait des couvertures, etc. Il y a une sorte d'inflammation au niveau des médias, comme les médias savent le faire à certains moments. Et là, ça va faire très peur. Ça va faire très peur aux gouvernants de l'époque. À l'époque, Jacques Chirac est président, son Premier ministre est M. Raffarin. Ça va faire très peur parce que les sondages qui sont faits à la suite des prises de position de ces deux députés eh bien, montrent que, selon les différents sondages, plus de 80% des Français semblent adhérer à leur démarche, qui est de dire, maintenant au XXIe siècle, il serait temps qu'on réfléchisse à une évolution de la loi sur ce point. Les esprits, les cerveaux sont prêts et sont même demandeurs d'une évolution de la loi. Et dans ces cas-là, alors qui a peur et pourquoi est-ce qu'on va chercher à mettre l'étouffoir sur ce début de mouvement ? Qui a peur ? Eh bien, il se trouve que Jean-Pierre Raffarin n'est pas hostile à leur démarche. Le président Jacques Chirac, je dirais qu'il s'en fichait un petit peu. Mais il se trouve qu'il y avait près de lui quelqu'un de très influent, que je ne citerai pas, mais qui porte toujours un sac à main sur ses genoux et qui s'occupe de pièces jaunes, et qui était extrêmement hostile, arc-bouté contre toute évolution du droit français sur ce point-là. Et qui l'a sommé de trouver un moyen de calmer le jeu et de faire en sorte que les choses ne bougent pas et qu'on ne soit pas contaminé par la vague hollandaise, belge, etc., etc., sur l'évolution du droit. Et donc, comment on fait en France quand on veut étouffer une affaire ? Eh bien, on crée une commission. Donc, on a créé une commission. On a créé une commission parlementaire qu'on a confiée à qui ? Non pas à ces deux députés, non pas à quelqu'un à l'époque de très connu, une autorité morale, etc. On l'a confiée à un médecin, et ce n'est pas neutre que ce soit un médecin, du sud de la France, UMP, le docteur Jean Leonetti, qui a pris le pilotage de cette commission Leonetti. La commission a ronronné gentiment, auditionné une centaine de personnes, fait un rapport qui fait presque 1000 pages, etc. Et l'exécutif pensait qu'on avait réussi à mettre l'édredon sur ce dossier. Sauf qu'entre-temps, l'affaire Humbert rebondit, puisque, dans les conditions que vous connaissez, Marie Humbert accède à la demande de son fils, introduit dans sa perfusion un certain nombre de produits qui ne vont pas procurer la mort, mais le placer dans le coma, et le docteur Chaussois va lui-même, alors qu'il était hostile à la démarche, mais compte tenu des produits déjà absorbés, va donner les derniers médicaments, entraînant la mort à Vincent Humbert, qui meurt, sa mère et le docteur Chaussois, revendiquant et assumant leur geste. Et là, on est en 2004, et là, l'affaire reprend la une de l'actualité, une des magazines. Les deux députés qui ont bien compris qu'on les avait anesthésiés par cette commission qui avait pour but de mettre le couvercle sur la marmite, reprennent leur bâton de pèlerin, les médias adhèrent de nouveau, les sondages sont encore plus démonstratifs que ceux réalisés quelques années auparavant. Et là, la commande qui est faite au docteur Jean Leonetti est de dire maintenant, eh bien, faites voter une loi qui soit un Canada Dry d'évolution, c'est-à-dire, ça ne parle pas aux jeunes, Canada Dry, ils ne savent pas ce que c'est, mais ceux de ma génération s'en souviennent, c'est-à-dire, faites une loi qui fasse semblant, qui fasse croire qu'on va changer les choses sans que ça change rien. Une loi écran, une loi rideau de fumée, et je vais expliquer pourquoi, à mon avis, et j'ai des arguments pour le démontrer, cette loi est un rideau fumé, et j'ai bien aimé que l'une des publications que j'ai trouvées sur la table tout à l'heure s'intitulait « On nous dit que la loi Leonetti a suffi à régler tous les drames de la fin de vie, mais quand on tourne la page, on voit la formule, on nous ment. Ben, » vous avez bien décrypté, vous avez bien décodé, cette loi, c'est une loi qui ne change rien, qui ne fait pas évoluer le droit français, alors qu'elle nous est présentée comme la baguette magique qui change tout. Le contenu de cette loi, loi du 22 avril 2005, loi Leonetti. Cette loi Leonetti, elle prévoit quoi ? Elle a été vendue comme étant une loi qui, d'une part, a été au départ présentée comme une loi en mémoire de Vincent Humbert. Sous-entendu, certains l'ont même appelée la loi Humbert au départ, avant d'abandonner cette appellation. Cette loi n'a rien à voir avec l'affaire Vincent Humbert, ou plutôt, elle a à voir avec le contexte, mais cette loi ne pourrait rien, concernant un cas contemporain qui pourrait être similaire à celui de Vincent Humbert. Je vous lis l'article premier de ce texte, désormais dans le Code de la santé publique. « Lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix. » La décision est inscrite dans le dossier médical, etc. Première remarque, cette loi a été vendue comme étant une réponse au cas Humbert. Eh bien, si Vincent Humbert avait survécu et qu'il était aujourd'hui parmi nous, ou si quelqu'un aujourd'hui était dans le même cas médical que Vincent Humbert, cette loi ne s'appliquerait pas à lui, puisque Vincent Humbert n'était pas en phase terminale d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Il n'était pas atteint d'une infection évolutive, il était un accidenté de la route polytraumatisé, il ne rentrerait pas dans le champ d'application de la loi Leonetti. L'espérance de vie de Vincent Humbert, au moment où il est décédé, était évaluée à 65-70 ans. Bien maintenu, bien soigné, bien traité, bien alimenté par voie parentérale, bien géré sur le plan physiologique, il pouvait vivre probablement jusqu'à 70 ans. Il n'était pas dans le cas prévu par la loi Leonetti. Deuxième remarque. Le deuxième argument de vente, marketing de cette loi Leonetti, était de dire, alors maintenant en France, on a une législation qui change tout, qui permet de gérer, et rappelez-vous la formule de l'époque, toujours pas le droit de faire mourir, mais qui permet de laisser mourir. Et qui permet enfin en France de respecter la volonté de la personne concernant le laisser mourir, etc. Oui, si on veut, sauf que ce n'est pas cette loi qui l'a prévu. Ce n'est pas cette loi qui a mis en place cette obligation de respecter le point de vue de l'individu. C'est la loi de 2002 qui déjà disait, je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun acte médical, aucun traitement sans le consentement libre et éclairé de la personne. Autrement dit, pour faire court sur cet aspect des choses, pour qu'on ait le temps pour pouvoir échanger ensemble, cette loi Leonetti, et j'ai eu l'occasion d'en parler lors d'une réunion à laquelle était présente Jean Leonetti, il n'a pas aimé ma formule, mais peu importe, je la répète, c'est une loi qui est une loi inutile sur le plan des principes juridiques, sur le plan de la frontière entre le permis et l'interdit. Loi inutile, alors vous imaginez bien Jean Leonetti qui faisait des bons en disant « vous ne pouvez pas dire ça », etc. Je lui ai dit « attendez, laissez-moi terminer ». Je dis, moi, en tant que juriste, que cette loi est inutile parce que, et je l'ai mis au défi, je lui ai dit, il n'y a pas un acte qui, avant 2005, était permis et qui ne l'est plus, qui serait aujourd'hui interdit. Ou inversement, il n'y a pas un acte qui était interdit avant 2005 et qui serait aujourd'hui permis. Cette loi n'a pas modifié l'état du droit sur aucun des points. Elle est inutile, mais néanmoins nécessaire. Alors là, il s'est arrêté en disant, mais qu'est-ce qu'il me raconte, etc. Nécessaire, parce qu'elle a permis, elle a forcé au moins au débat. Elle a permis de débattre, c'est déjà un apport, et surtout, elle a eu des vertus pédagogiques, parce qu'elle a permis de préciser un certain nombre de choses qui étaient déjà acquises, mais qui n'étaient peut-être pas dans l'esprit d'un certain nombre de médecins en particulier, parce qu'il me semble que, je ne suis pas médecin, mais je travaille assez souvent avec eux, et ils sont, à mon avis, une des clés de l'évolution de ce qui pourrait nous faire évoluer pour la suite. Je passe sur l'affaire Diane Preti, je passe sur l'affaire Thierry Chaveau, parce que sinon, on va finir à 23h30 et on va mettre en difficulté les gens qui gèrent cette maison, pour arriver à la fin de la première partie et faire une deuxième partie très courte, de quelques minutes seulement. Fin de la première partie, le droit tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui concernant la fin de vie et l'individu ? Eh bien, il n'y a que deux situations pour faire simple. Il y a l'individu qui est en fin de vie conscient, lucide et qui peut imposer le respect de sa volonté parce que c'est acquis depuis 2002, aucun acte médical sans le consentement libre et éclairé de la personne. Je ne veux pas d'antibiotiques, je ne veux pas de tels produits, je ne veux pas d'alimentation, je ne veux pas d'une chirurgie, je ne veux pas de chimio, je ne veux pas de dialyse. Eh bien, c'est juridiquement une volonté que j'exprime et qui doit être respectée. Point. Deuxième hypothèse, l'individu n'est pas lucide au moment où il rentre dans cette phase de fin de vie. Et là, la loi Leonetti, bien évidemment, n'a pas osé aller très très loin, même dans l'explicitation des motifs. Elle dit simplement... L'individu peut avoir rédigé des directives anticipées. Directives anticipées qui, à condition qu'elles datent de moins de 3 ans, seront mises dans le dossier médical et le médecin en tiendra compte. Ces directives anticipées, c'est l'expression de ce que voudrait l'individu, de ce qu'il envisagerait, de ce qu'il souhaiterait, de ce qu'il ne souhaiterait pas. Si un jour je suis inconscient, je ne voudrais pas de chimio, je ne voudrais pas de ceci, je ne voudrais pas de cela. C'est des directives anticipées, mais ce qui est... C'est là que la loi n'a pas eu le courage d'imposer les choses. Ces directives anticipées ne s'imposent pas aux médecins. Elles ne sont pas juridiquement aussi puissantes que deux choses qu'on connaît en droit depuis longtemps. Il y a deux choses puissantes pour ce que je décide aujourd'hui pour la phase où je serai ou carrément mal ou mort. Le testament, en matière civile, où je peux décider aujourd'hui de ce qu'il adviendra de mon patrimoine. Et puis, depuis 1887... mes funérailles, où je peux décider et ça sera opposable et même pénalement sanctionné si on ne respecte pas ma volonté. La loi n'a pas osé adopter la même démarche. Elle aurait pu le faire, mais pour toutes les raisons de contexte que j'évoquais, elle ne l'a pas fait en 2007. Et enfin, deuxième partie, et le droit demain. Dans quel sens est-ce que les choses peuvent évoluer demain ? Eh bien, le droit de demain, il peut évoluer pour plusieurs raisons et dans plusieurs sens. Les raisons, eh bien... Les raisons, je me contenterai de vous montrer une publication qui date d'avril-mai 2013. Les magazines sortent toujours en avance. Avril-mai, on n'est encore qu'en mars. Mais le magazine Marianne vient de sortir, je l'ai trouvé hier, un hors-série, les textes sur la mort, hier et aujourd'hui. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est le sous-titre qui montre bien que la société, heureusement, est enfin aujourd'hui mûr, capable d'aborder cette question de la mort. Le sous-titre, c'est « La mort, l'attendre ou la choisir, vivre avec celle des autres ». Je crois que tout est dit dans ce sous-titre. L'attendre ou la choisir, est-ce qu'on est passif comme au Moyen-Âge où seul le roi ou le bon Dieu peut décider, ou est-ce qu'aujourd'hui on peut être amené dans certains cas à souhaiter la choisir ? Et puis, il y a la mort de soi et il y a la mort des autres. C'est, je crois, assez bien résumé dans ce fascicule que j'ai survolé. Je n'ai pas eu le temps de le lire en entier. Il y a un ensemble de textes classiques, Flaubert, Mallarmé, Victor Hugo. Mais il y a aussi des choses contemporaines. Vous trouverez en particulier un texte sur le président de l'association Exit, qui est suisse et qui applique régulièrement la question du suicide assisté à la mode de nos cousins ou voisins helvètes. Voilà pour cette question. Le contexte est important. Le droit peut changer dans les années à venir. Pourquoi ? Parce que d'abord, les mentalités ont changé. Et je crois que le droit n'est jamais que le reflet des choix d'une société. Le droit n'est jamais innocent de la société qui le fait naître. Le droit ne vient plus depuis 1789 du bon Dieu, il ne vient plus du roi, il vient d'une volonté des citoyens d'un pays, à un moment ou à un autre, de faire bouger les choses, dans un sens ou dans l'autre. Il me semble que la maturation des esprits est aujourd'hui, et aussi grâce à des affaires médiatiques, Imbert, etc., mais à des démarches militantes, c'est le cas de la DMD, les esprits sont, et je crois que le fait que vous soyez tous présents aujourd'hui dans cette salle le montre, prêts en tout cas à réfléchir, à débattre et à envisager de faire évoluer dans le sens d'un progrès la question de la fin de vie. Et je crois que ça, c'est fondamental. Enfin, bien évidemment, il y a d'autres indicateurs qui montrent qu'on est à l'aube d'une évolution du droit sur ces questions. Il y a eu la proposition de loi du candidat, mais ça, je dirais que c'est pas proposition de loi, la proposition de campagne du candidat François Hollande. C'était au moins le fait que cette thématique ait été prise en compte dans le débat politique. Ensuite, ça c'était, je dirais, pour vous, un côté optimiste. Ensuite, il y a eu un coup de froid, une douche froide, commission Sicard, où on désigne des gens dont on sait pour la plupart qu'ils sont plutôt hostiles à toute évolution. Ça, c'était le côté négatif ou pessimiste. Mais il y a deux autres points positifs qui viennent alimenter votre espoir. Et un sur lequel je m'attacherai avant qu'on puisse échanger, je vais les prendre chronologiquement, c'est 14 février 2003, à peine un mois, jour de la Saint-Valentin, l'Ordre des médecins fait son outing, sa révolution culturelle. Et ça, c'est fondamental. Parce que l'Ordre des médecins, jusqu'à présent, était fondamentalement hostile à toute évolution de la législation. Et ce n'est pas un hasard si la commission Leonetti était pilotée par un médecin, le docteur Jean Leonetti. L'Ordre des médecins a, jusqu'à 2013, toujours été dans le camp des opposants à toute évolution du droit sur ce point. Jusqu'en 2013, puisque pour la première fois, avec un certain nombre d'euphémismes et de précautions oratoires, puisque bien sûr il n'y a pas le mot euthanasie et autres, mais pour la première fois, eh bien, l'Ordre des médecins admet qu'il faut faire évoluer les choses et parle d'un devoir d'humanité par rapport à la question de la fin de vie, en disant que des situations même rares, ne peuvent demeurer sans réponse. Une sédation adaptée, profonde et terminale, délivrée dans le respect de la dignité, pourrait être envisagée par devoir d'humanité, par un collège, selon des procédures qui restent à fixer. Mais je dirais que c'est vous parliez de brèche tout à l'heure, d'éclat de lumière dans l'obscurité. Eh bien, oui, il y a ici une brèche fondamentale qui est riche d'espoir pour pouvoir envisager des évolutions. Enfin, un autre document plus récent encore, 18 mars 2013, de l'Observatoire de la fin de vie. Cet observatoire créé en 2005, là encore, dans le cadre de cette loi Édredon dont je parlais tout à l'heure, on a fait plein de choses qui ne coûtaient rien et qui ne faisaient pas changer les choses. On a créé l'Observatoire, mais en 2013, 8 ans après, il nous sort un rapport extrêmement intéressant. C'est que, sur le lieu et les modalités de la fin de vie, aujourd'hui, 81% des Français disent vouloir passer leurs derniers instants chez eux, mais seulement 25,5% des décès surviennent à domicile. Qu'est-ce que montre l'Observatoire de la fin de vie sur les conditions de la fin de vie en France ? C'est qu'il y a un décalage énorme entre le fait que la mort se produit aujourd'hui dans un univers hospitalier, dans une très grande majorité, 75% des cas, alors que la volonté des individus est de mourir chez soi. Ce qui veut bien dire qu'il y a un hiatus, il y a un gap, il y a un décalage complet entre ce que veulent les gens et ce qui est réalisé. Il y a une sorte de technopouvoir de l'hôpital qui a, Philippe Ariès l'a très bien démontré, sur la captation de la mort qui est passée du champ de l'église au champ de l'hôpital. Eh bien, il est probablement temps et c'est un des objectifs de l'ADMD, de faire en sorte que la question de l'acte d'euthanasie, mais aussi des conditions de la fin de vie, de qualité de la fin de vie, eh bien, redevienne non plus à l'Église, non plus au roi, non plus à la blouse blanche, mais redevienne un choix de l'individu, parce que ce dont nous parlons, et ce que je dis régulièrement aux médecins, ils ont du mal à l'entendre, mais ça ne m'empêche pas de l'asséner, c'est que, je leur dis, vous ne vous occupez pas de la vie. Arrêtez de nous dire que vous vous battez pour la vie, vous ne vous battez pas pour les vivants, personne ne se bat pour la vie, on se bat uniquement pour un ou une vivant ou vivante. Nous sommes vivants, c'est pour ça que cette question nous préoccupe. Merci de votre attention. Place aux questions. Peut-être l'animateur, Boris ?
Place aux questions. Alors... vous êtes invité à profiter de la présence de Bruno Pi pour en poser le plus possible. Est-ce que je peux en poser une ?
C'est toujours la première question.
Voilà, c'est peut-être pour débloquer. Je suis frappé effectivement par l'analyse que vous avez présentée qui sort de clichés que même au sein de la DMD ont existé par rapport à la position de l'Ordre national des médecins. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que vous en avez faite. Il y a également le syndicat MG France qui a pris une position encore plus avancée, n'est-ce pas ? Il y a cette proportion de 60% de médecins qui est reconnue comme favorable à nos idées, ce qui est encourageant également. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas davantage des études scientifiques, disons, relativement récentes, celles de Ferrand en 2011, celles de Bataille en 2012, qui ont apporté vraiment de l'eau au moulin que vous évoquiez quand vous parliez des soins palliatifs qui ne résolvent pas tous les problèmes, puisque l'étude de Ferrand, bien qu'il soit réanimateur, et donc de culture spontanément opposée, n'est-ce pas, aux idées de la DMD, reconnaissait la persistance d'une volonté réitérée de mourir chez un certain nombre important de patients hébergés en soins palliatifs. Et Bataille est allé encore plus loin, puisque c'est lui qui a évoqué la culture palliative, le déni du désir de mourir auquel on procède dans les services de soins palliatifs, ce qui fait qu'on peut même penser que les enquêtes en services de soins palliatifs sur le taux des personnes qui maintiennent leur demande de mourir dans des conditions décentes est en fait sous-estimé compte tenu de ce déni que Bataille a observé dans les services de soins palliatifs. Et je suis frappé très souvent par le peu d'écho que des études scientifiques donc peuvent avoir et qui apportent de l'eau au moulin qui est celui de notre association. Quelle pourrait en être la cause ?
Je prends le micro, sinon la question va être plus longue que ma réponse. Ça, c'est le problème des enseignants, ils sont bavards. Et donc, quand deux enseignants se rencontrent, ils bavardent. Deux points. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais répondre que sur les dimensions juridiques ou parajuridiques. D'abord, je crois qu'il y a un vrai... il y a eu, on va dire au passé, un vrai problème concernant la médecine française par rapport à la douleur. C'est quand même assez extraordinaire. Il a fallu attendre 1999... et le plan national de lutte contre la douleur, pour que les Français abandonnent une position qui était abandonnée par tous les autres médecins du monde depuis 30 ans sur la gestion de la douleur, sur l'approche globale de la douleur. Les médecins français étaient négligents, plus que négligents, c'était un choix de ne pas prendre en compte la douleur. Ils focalisaient par exemple sur la pompe auto-injectante de morphine. Vous savez, ces pompes qu'on peut installer à l'individu qui ensuite gère lui-même sa morphine. Les seuls hostiles à partir de la fin des années 70 et pendant 20 ans, c'est les Français. Les seuls. Leur argument étant de dire que oui, mais alors, si l'individu peut appuyer sur le bouton, l'individu va se shooter, va devenir un toxico et va s'envoyer des bouffées, etc., etc. Alors que scientifiquement, c'est démontré depuis 1971-72 aux États-Unis que c'est l'inverse. Quand la morphine est gérée par l'individu qui appuie sur le bouton, ou quand la morphine est demandée à l'infirmière qui va demander au médecin qui l'a prescrit, qui la donne à l'infirmière et qui l'injecte, la consommation est 8 fois moindre quand c'est l'individu qui dose. Pourquoi ? Parce que l'individu sait exactement quels sont les premiers signes annonciateurs de sa douleur, etc., et qu'il va les juguler tout de suite. Alors que sinon, il attend l'infirmière, donc il attend d'avoir mal, et la douleur s'installe. L'infirmière va chercher le médecin qui sous-dose le produit et qui donne à l'infirmière. Tout ça fait que quand il faudra combattre la douleur, il en faudra beaucoup plus, beaucoup trop tard, etc., etc. Et puis, il y a un côté, on peut se le dire entre nous, ça ne sortira pas d'ici, c'est un côté judéo-chrétien, la douleur était vue comme rédemptrice. La douleur était considérée comme le prix à payer pour la maladie, pour le soin, etc. Bref, je passe là-dessus. Les médecins français, si je vous parlais de la douleur chez, et de la prise en compte de la douleur chez les prématurés, chez les grands prématurés, on arrive à des choses horribles. Les Français ont été les seuls à continuer à prétendre que le très grand prématuré ne souffrait pas. Forcément, il ne crie pas, il ne pleure pas, y compris quand on lui injecte, etc. Il a fallu qu'on attende la neuro-imagerie pour montrer que les centres de la douleur sont activés. Simplement, comme il est très grand prématuré, il ne peut pas, il ne sait pas pleurer, il n'y a pas de connexion, il ne pleure pas, il ne crie pas, mais il ressent la douleur. Ce qui veut dire que pendant des décennies, on a, y compris, opéré sans anesthésie des grands prématurés parce que les médecins avaient décidé qu'ils ne souffraient pas. Vous voyez la logique qui était celle de la douleur. Tout ça explique aussi beaucoup de choses. Deuxième point sur les soins palliatifs. Sur les soins palliatifs, les médecins français ont été très favorables aux soins palliatifs, et ils le sont globalement, et on peut comprendre leur démarche, avec une dimension que les sociologues analysent bien, c'est que les soins palliatifs, c'est des soins. C'est des soins, et ça conserve la mainmise d'un pouvoir médical sur la fin de vie. L'individu est capté, happé par les soins palliatifs et donc par l'équipe médicale, pluridisciplinaire, etc. Mais ça reste dans le champ de la sphère médicale. Et un indicateur qui permet de conforter cette vision presque politique des choses, qui parle de pouvoir médical, je ne suis pas dans une logique de lutte des classes, c'est l'affaire Chantal Sébir. Chantal Sébir, si vous vous souvenez, cette jeune femme qui est atteinte du tumeur de la face, on est après 2005, après la loi Leonetti, Chantal Sébir interpelle les médias en disant « Voilà, je suis atteint d'une pathologie qui va un jour ou l'autre m'affaiblir au point que je serai très mal et que j'en mourrai, elle est incurable, sauf que je ne veux pas attendre aussi loin, je veux pouvoir choisir quand et comment je veux mourir chez moi au moment où je l'aurai décidé. » Et elle écrit, pas au président de la République, on sait depuis Vincent Imbert que ça ne sert à rien, donc elle écrit au tribunal de Bourg-en-Bresse, où elle habite, dans l'Ain. Elle écrit « Monsieur le juge, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mon mari ou un de mes proches qui décide, quand j'aurai donné le feu vert, de me donner la mort ?» Réponse du tribunal, en droit français, on ne peut rien faire. Et à l'époque, le docteur Leonetti, qui a donné son nom à la loi de 2005, va être interpellé via les médias, et il va avoir cette formule extrêmement intéressante, parce qu'elle montre bien que lui-même se prend les pieds dans le tapis. Il va dire « Oui, mais Chantal Sébir, elle ne veut pas la solution qu'on lui propose. La solution qu'on lui propose, c'est des soins palliatifs. » Il dit « Mais ce n'est pas ça qu'elle demande. » Il dit « Oui, non, mais si elle acceptait des soins palliatifs, écoutez le raisonnement tenu par Jean Leonetti, si elle acceptait des soins palliatifs, on la placerait donc dans un établissement de soins où on pourrait la sédater et la mettre donc sous dépendance de produits et de machines. Sa vie, sa survie serait dépendante de machines. Et comme elle refuse tout traitement, ensuite on pourrait arrêter les machines. La mettre sous dépendance des machines gérées par les médecins pour ensuite couper les machines et faire en sorte que, eh bien, elle meure. Par contre, il redit, on n'a pas le droit de la faire mourir. Alors, expliquez-moi, et juridiquement ça ne tient pas la route, quelle différence il y a entre pousser dans une perfusion, une seringue qui entraîne dans les minutes qui suivent une mort paisible et faire dormir l'individu, le mettre sous dépendance de machines, d'oxygène, de ventilation, etc. et d'alimentation et ensuite couper les machines pour qu'à terme, au bout de 6, 8, 10 jours, il meure. Juridiquement, c'est juste les modalités, c'est le mode opératoire qui est différent, mais l'acte est globalement identique. D'accord ? Ça montre bien, l'affaire Chantal Sébir montre bien que oui, les soins palliatifs sont utiles pour plein de gens. D'abord, qui sont volontaires pour être en soins palliatifs, mais que, par ailleurs, ça ne règle pas la question d'un certain nombre de cas dramatiques, comme celui évoqué par Chantal Sébir, qui refusait tous les actes médicaux, tous les traitements, quels qu'ils soient, même palliatifs. Est-ce qu'on doit respecter l'autonomie de la personne, y compris jusqu'à ce point ? C'est une des questions qui reste posée à l'heure actuelle.
Oui, Oui, bonsoir. Merci pour l'éclairage que vous nous avez apporté ce soir, enfin que vous m'avez apporté à moi, en tout cas. Je voudrais reprendre vos derniers propos. Vous avez dit donc que 80% des gens souhaitent décéder à la maison. C'est mon cas. Mais comment se fait-il qu'il n'en est pas ainsi ? Est-ce qu'on constate souvent, enfin moi je m'en aperçois autour de mon entourage, que même des gens âgés ou pas, en fin de vie, au dernier moment, la famille, s'ils sont à la maison, la famille fait appel au médecin, au SAMU pour dire on va transporter le malade ailleurs. Est-ce que pas un peu la peur de recueillir les derniers râles du malade, du mourant ? Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui fait en fait que les gens ne meurent pas chez eux alors qu'ils pourraient en être autrement ? Autrefois c'était quand même comme ça, les gens mouraient chez eux.
Alors, là, je peux vous donner mon analyse personnelle, mais on s'éloigne du droit, puisque ce n'est plus une question de droit. Je dirais qu'on a vécu, à la fin du XXe siècle, un paradoxe étonnant, je ne suis pas le seul à l'avoir analysé, qui concerne le rapport à la mort. Et, en effet miroir, le rapport au sexe. Vous allez me dire quel lien ? Mais il y a toujours eu des liens croisés entre Eros et Thanatos dans l'histoire du monde. Je veux dire par là que pendant des siècles, les sociétés faisaient de la question de la mort un fait normal, quotidien, régulier, vécu familialement et collectivement. On mourait chez soi quand il y avait un mort. Brassens a fait une magnifique chanson sur « Il y a un mort à la maison, les voisins passent », etc. C'était un fait individuel, collectif et social. Et tous les enfants de France, si vous prenez le tour du monde, le tour de France de deux enfants, etc., tous ont un rapport à la mort, parce qu'il y a toujours eu dans le village un vieux, un jeune qui meurt, et on va le visiter, certains font la toilette, et on l'accompagne, et on a le cortège, etc. Il y avait une ritualisation, un vécu du mort. Je parle de la mort des humains. Quant à la mort des animaux, tous les Français avaient vu, voire avaient contribué, pour des raisons alimentaires, à tuer des animaux. La mort était vécue collectivement et représentée artistiquement. On a des tableaux sur la mort, sur les allégories de la mort dans tous les musées, dans toutes les églises, etc., etc. Bien. Plus les monuments aux morts, la mort du militaire, tout ça, c'est iconographie et vécu. Par contre, à l'époque, bien sûr, jusqu'aux années 68-70, tout ce qui touche au sexe est caché. On n'en parle pas, on ne montre pas, il n'y a pas d'iconographie, etc., etc. Et entre la fin des années 70 et 2000, on va avoir une bascule complète. Une sorte de vase communicant, la mort va disparaître du champ du vécu et de l'image, la mort réelle, la vraie mort. On ne verra plus les enfants d'aujourd'hui, pour la plupart, n'ont même pas vu un animal mort. Bien évidemment, pour la plupart, ils n'ont pas rencontré un être humain mort, sauf si malheureusement, ils ont été impliqués dans une scène de crime ou dans un accident collectif, mais c'est rarissime. À l'inverse, d'ailleurs, de ce qu'ils voient à la télévision. Parce qu'un spectateur moyen voit 10 000 morts par an à la télé. Mais ce n'est pas des vrais morts, c'est des faux morts. 10 000 virtuels. Mais des réels, eh bien, ils n'en voient pas. En revanche, dans le domaine de la sexualité, de l'éros, de la libido, là, par contre, maintenant, pour vendre un yaourt, on vous montre une fille toute nue et on voit des scènes. Et tout élève de CM2, enfin, la moitié, 50% des élèves de CM2 a vu au moins une scène pornographique en sortant de CM2. On a caché la mort, on a extériorisé le sexe, comme s'il y avait un effet de balancier. Maintenant, il me semble, c'est mon point de vue, qu'on est en train de revenir à un juste milieu. On est en train de réfléchir à l'hypersexualisation et à revenir en arrière, ça c'est la dimension sexe, sur la question de la mort. Eh bien, on commence, et je crois que, je n'ai pas d'intérêt économique dans ce magazine, mais je crois que le fait qu'on puisse, et ce n'est pas le premier, avoir des publications qui parlent de la mort, y compris sans que ça soit forcément grave, triste et macabre, eh bien, montre que le balancier est peut-être en train de revenir au juste milieu. Et le fait que l'Observatoire de la fin de vie assène et publie son rapport en disant « Attention, ce qui se fait n'est pas ce que les gens souhaitent », eh bien, ça oblige, et ça va obliger nos pouvoirs publics, nous et nos représentants au Parlement, à réfléchir à la manière d'un peu plus respecter la volonté des gens. Maintenant, ça suppose aussi qu'il y a un entourage. Parce que l'autre problème, mais ça, je n'ai pas de compétences pour en parler, c'est le problème de la solitude des gens dans cette phase-là. Je vous rappelle l'épisode de 2003 de la canicule, on a encore aujourd'hui 80 personnes décédées dont personne n'a réclamé le corps. Donc ces gens-là, ils voulaient peut-être mourir chez eux, mais mourir chez eux, c'est les laisser sécher au troisième étage sur le canapé, peut-être que pour ces gens-là, qui auraient bien voulu mourir chez eux, ça ne sera jamais possible, quand il n'y a pas d'entourage du tout. D'accord ? Ça, c'est un autre problème.
Si vous avez des questions à poser, là, vous avez le micro.
Oui, à la fin de la deuxième partie, vous avez dit qu'il y avait deux situations. Le patient est conscient ou il ne l'est pas. Et quand il ne l'est pas, il a pu écrire ses volontés, mais elles ne sont pas forcément respectées. Alors je voudrais comprendre pourquoi.
Alors, je voudrais revenir d'abord sur une expression qui a longtemps été à tort utilisé par la DMD, et puis ensuite je vais essayer d'expliquer pourquoi. Pendant longtemps, la DMD souhaitait qu'on mette en place en France un testament de vie. Et vous avez tous entendu cette expression qui est maintenant, je crois, écartée et plus utilisée. Pourquoi ? Parce que l'expression testament de vie, elle était ambiguë. Elle était ambiguë parce que le testament, ça existe déjà. Et on a tous une notion vague au moins de ce que c'est. C'est un acte juridique par lequel un vivant décide de ce qu'il adviendra de son patrimoine après sa mort. C'est un acte de volonté du vivant pour l'après-mort. Alors que ce que voulait dire la DMD à l'époque, quand elle utilisait l'expression testament de vie, c'est « je veux pouvoir dire, tant que je suis conscient, vivant et conscient, ce que je veux pour quand je serai toujours vivant, mais inconscient ». Or, ce n'est pas un testament, ça. Le testament s'applique seulement et ne trouve application qu'après la mort. D'où le fait que, désormais, cette formulation est abandonnée. Qu'est-ce qui aurait été possible ? Eh bien, il aurait été possible de prévoir un acte juridique d'expression de la volonté qui soit opposable et qui soit obligatoirement respecté par l'entourage et par les médecins. Mais politiquement, ce n'est pas ce qui a été choisi en 2005. C'est pour ça qu'on a été chercher une terminologie ampoulée de directive anticipée, un truc sui generis qu'on a inventé, sorti du chapeau, pour dire il faut que les gens puissent parler, mais sans qu'on soit obligé d'entendre. Voilà ce que signifie l'expression de directive anticipée. Vous pouvez mettre par écrit ce que vous voulez, et on verra bien. On verra bien si on vous suit ou pas. On peut espérer que dans la globalité des cas, les médecins, l'entourage suivent. Mais c'est qu'un espoir. Ça n'est pas une obligation au sens juridique. Ce qui veut dire concrètement, toujours sous l'angle juridique, qu'on ne peut pas aujourd'hui faire un procès à des médecins ou à un entourage qui ont décidé l'inverse, d'accord, de ce que voulait l'individu dans ces directives anticipées, puisque c'est, pour reprendre une autre terminologie, un simple avis consultatif. On doit les consulter, mais on n'est pas obligé d'en tenir compte. Il y a des tas d'outils juridiques qui auraient pu être choisis sur le mandat, sur le contrat, etc., qui auraient été obligatoires, mais politiquement, on n'a pas voulu aller.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la personne de confiance ?
Alors, la personne de confiance, elle est prévue, elle est inventée en France par la loi du 4 mars 2002. C'est une personne qui, article L1116, a un rôle nouveau, mais qui là encore est à peu près du même ordre. Je m'explique. Qui elle est, qui la nomme, à quoi elle sert. La loi dit la chose suivante, toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui est destinée à jouer un rôle si un jour, celui qui l'a désigné est hors d'état de manifester sa volonté. Autrement dit, je peux désigner quelqu'un aujourd'hui, alors que je peux encore décider, pour le cas où, un jour, je serai hors d'état d'exprimer ma volonté. Cette personne de confiance, à quelle situation elle correspond ? Elle correspond principalement à une problématique très moderne qui recouvre toutes les pathologies à dégénérescence cérébrale. Toutes les pathologies qu'on peut détecter un jour en vous disant Alzheimer, Parkinson et d'autres pathologies du même ordre, où aujourd'hui vous allez bien, mais vous savez que vous allez décliner et qu'un jour ou l'autre, vous ne pourrez plus vous exprimer. Eh bien, la loi vous permet de désigner à l'avance une sorte de personne ressource, une sorte de grand témoin qui sera là pour donner quoi ? Pour donner un avis, même fonction. La personne de confiance n'aura jamais, en matière de soins ordinaires, je ne parle pas de fin de vie, là, je parle des soins de manière générale, n'aura jamais à décider quoi que ce soit. Elle aura à donner un avis. Faisons fonctionner le modèle. J'ai désigné une personne de confiance, Maurice Gomel, pour parler en mon nom si un jour je suis hors d'état d'exprimer ma volonté. Un jour, je suis hors d'état d'exprimer ma volonté. On ne peut pas faire, on peut rien faire sauf urgence sans solliciter ma personne de confiance, Maurice Gomel, pour lui demander quoi ? Pour lui demander son avis. Je vous prends les textes juridiques sur ce point, 1111-6. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche, qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté. Et l'article 1111-4 dit « Lorsqu'une personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ne peut être réalisée sauf urgence sans que la personne de confiance ait été consultée. » Donc on le consultera pour quoi que ce soit. On envisage de faire le vaccin anti-grippe à M. Pi qui est hors d'état de s'exprimer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il aurait voulu, il n'aurait pas voulu, il aurait aimé, il n'aurait pas aimé. Maurice Gomel donnera son avis en essayant de se souvenir de nos discussions pour voir ce que je pensais du vaccin anti-grippe. Mais de toute façon, c'est une consultation. On est dans la même logique, c'est que directive anticipée ou personne de confiance, ce sont des avis. L'étape suivante, courageuse, serait de prévoir dans la loi, et on a des outils pour le faire, de dire un individu peut être amené à décider. Mais qui sont les interlocuteurs ? Ce sont les médecins, c'est l'équipe médicale. Et en 2002 comme en 2005, on n'a pas osé mettre en œuvre des papiers, des documents ou des personnes qui puissent opposer aux médecins un non par rapport à leur démarche ou au contraire qui puissent imposer un oui par rapport à un refus des médecins. On a laissé ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas s'il y a beaucoup de médecins dans la salle, j'aurais dû demander avant de prendre la parole pour ne pas dire du mal, mais on a eu jusqu'à présent une trop grande révérence par rapport au monde médical. Sur ces questions-là, je dois quand même modérer mon propos, parce qu'il y a eu des époques où on a su, par la loi, dans certains cas, permettez-moi en fin de soirée l'expression trivale, mais leur rentrer dedans aux médecins. En 67, loi Neuwirth sur la contraception, l'Ordre des médecins est contre, l'Académie de médecine est contre, ils sont tous contre la contraception. Pas de pilule. La pilule de mort, on l'appelle à l'époque, on n'est pas des prescripteurs de mort, etc. La loi, on est en 67. Avant, on est sous De Gaulle, à une époque où les mœurs sont quand même assez rigides. Le Parlement français dit la pilule sera en vente, c'est un acte médical, prescription médicale, point. Et pas de clause de conscience. Donc l'ordre était contre, l'académie était contre, etc. Le législateur, même conservateur, s'est dans certains cas imposé sa volonté. Sur la question de la fin de vie, on n'a pas su. Il ne faut pas nier les influences des différents lobbies qui interviennent dans ces questions. Là, on parle des médecins. Vous avez parlé d'un syndicat de médecins qui est très progressiste. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus en arrière. Mais il y a aussi une influence, et comme ça, la boucle sera bouclée par rapport à mon introduction historique, qui est l'influence des grands courants de pensée philosophiques et religieux. Il y a quand même une chose qui me rend assez perplexe en tant que juriste, c'est que dans les débats qui touchent à la santé, à la vie, au choix et à la mort, qu'on appelle les débats d'éthique ou de bioéthique, depuis 1983, qu'on a créé un comité consultatif sur ce plan, eh bien, chaque fois qu'on aborde ces questions-là, on va chercher systématiquement les religieux. On a en 1905, c'est le juriste qui reprend le dessus, séparé la chose publique de la philosophie et de la métaphysique en séparant les églises et l'État, très bien. Mais depuis la fin du XXe siècle, on a de cesse sur ces questions fondamentales de vie, de mort et de choix personnels que de faire rentrer par la fenêtre ceux que la loi avait sortis par la porte en 1905. Et il n'y a pas que sur ces questions-là. J'en parlais avec Maurice Gomel juste avant cette séance pour travailler sur un autre dossier qui n'est pas si loin que cela de la fin de vie, qui est la crémation, sur le droit applicable aux règles sur la crémation. Eh bien, une loi de décembre 2008 a restreint les libertés de chacun d'entre nous en limitant, en interdisant le fait que les cendres reviennent à domicile, en limitant les dispersions de cendres, etc., mais en réintroduisant le fait que les cendres puissent être déposées dans des édifices religieux. Sur les funérailles, depuis 1887, on avait permis à ceux qui le voulaient de sortir du champ religieux pour rompre le monopole des religieux sur la mort et sur l'inhumation, eh bien, en 2008, on les réintroduit comme étant... On n'a plus le droit d'avoir les cendres chez soi dans un placard, mais les religieux peuvent être dépositaires des cendres des individus. Comme quoi, eh bien, les choix de société sont aussi, dans certains cas, eh bien, rythmés par l'influence des uns ou des autres, et en particulier de cette dichotomie entre les laïcs et les religieux. Il y a deux questions dans le fond, là.
Je voulais savoir, pour la mort à domicile, est-ce que l'entourage n'a pas peur d'être poursuivi pour non-assistance à personne en danger ?
Alors, deux remarques. D'abord, sur le mot que vous utilisez, parce que ce n'est pas celui que j'ai utilisé. C'est vrai qu'on entend souvent parler de non-assistance à personne en danger. Ce n'est pas les termes juridiques. Les termes juridiques, c'est non-assistance à personne en péril. Vous allez dire, oh ben vous jouez sur les mots danger, péril, c'est la même chose. Pas du tout. En droit, on distingue bien, et le code pénal distingue bien le danger. Il y a un risque certain, mais on ne sait pas quand ni avec quelle intensité. Le risque est connu, mais on ne sait pas s'il va se produire, ni quand, ni avec quel impact. Exemple classique, le tabac est dangereux. Fumer est dangereux. C'est marqué sur les paquets. Le risque est connu, mesuré. Et c'est un fumeur qui vous le dit. Le risque tabac, 50% des fumeurs mourront d'une pathologie liée au tabac. C'est un danger. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est un autre ? Quelle pathologie ? Quand ? On ne sait pas. Danger. Qu'est-ce qu'un péril ? Un péril, c'est un risque certain, gravissime et imminent. Risque de mort ou de mutilation à très brève échéance. D'accord ? Donc, qui va se passer dans les minutes qui viennent. Ce qu'interdit la loi... et qui peut fonder des poursuites, c'est la non-assistance à personne en péril. D'accord ? Et seulement dans ce cas-là. Première remarque. Deuxième remarque. Est-ce que si je reprends ma mère chez moi, alors que je sais qu'elle est condamnée, qu'elle est en phase terminale d'un cancer généralisé, et donc elle va mourir chez moi, je peux craindre d'être poursuivi pour non-assistance ? Non. Parce qu'il faut qu'il y ait péril. Et oui, effectivement, à un moment ou à un autre, elle va être à l'article de la mort. Bien. Mais il faut qu'il y ait non-assistance. Non-assistance, ça ne veut pas dire que je vais empêcher la mort, que je vais empêcher le péril. Il y aurait répression si, face à un péril, je ne faisais rien du tout, je ne lui portais pas assistance, y compris une assistance non directement efficace. Mais c'est là qu'il y a une assistance, y compris humaine, simplement humaine, qui compte. C'est là que je vais parler d'une affaire qui date des années 60 et qui est très intéressante. C'est une affaire qui se passe dans le milieu de la haute montagne. Dans un massif près de Chamonix. On a un certain nombre de gens qui sont victimes d'un accident d'avion qui s'est crashé sur la montagne par une période de très mauvais temps. Bien. Il se trouve que depuis la vallée et dans quelques trouées de nuages, on observe qu'il y a une carlingue d'avion qui s'est... et on observe qu'il y a du mouvement, il y a des gens vivants. Donc, on ne peut pas envoyer les hélicos, il y a mauvais temps, etc. On envoie une colonne de gendarmes de haute montagne qui partent pour aller à l'endroit de l'impact. Le temps est particulièrement mauvais, ils arrivent, et quand ils arrivent, il y a deux survivants dans les passagers, un qui est encore lucide, l'autre qui est déjà inconscient. Bien. Mais le temps est particulièrement abominable, les gendarmes essaient de leur donner à boire, à manger, de les aider, de les mettre à l'abri, etc. Mais les gens sont intransportables, eux ils sont à pied, les gendarmes ils n'ont rien que leur sac à dos, ils ne peuvent pas les prendre sur leur dos sans se mettre eux-mêmes en péril. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Les gendarmes ils décident de redescendre dans la vallée. Ils redescendent dans la vallée en ayant bien conscience que le temps de faire les 6 ou 8 heures de marche, etc., que les deux survivants seront passés de vie à trépas. Bien. Le lendemain, le temps s'est dégagé, on envoie un hélico et arrive l'hélico, tout le monde est mort. Bien. Et il va y avoir poursuite pénale pour non-assistance à personne en péril. Les gendarmes vont être poursuivis. Devant le tribunal correctionnel de Chambéry, il va y avoir débat. Qu'est-ce que disent les gendarmes ? Les gendarmes disent « Ok, ils étaient en péril, mais on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas les sauver. » Il n'y avait pas d'hélico possible, on ne pouvait pas les transporter. On a fait ce qu'on pouvait, on leur a laissé à manger, à boire. Et puis, basta, on ne pouvait rien faire. Et le tribunal correctionnel va néanmoins les condamner en leur disant, certes, vous ne pouviez pas leur sauver la vie, mais ce n'était pas ça l'enjeu. Ce n'est pas ça que prévoit le code pénal. Ce que vous avez fait, c'est que vous les avez laissés, vous les avez abandonnés, alors que vous saviez qu'ils étaient en situation de péril. Et ils n'ont même pas eu droit à ce geste d'humanité qui est ne serait-ce que de pouvoir tenir la main de quelqu'un ou être les yeux dans les yeux d'un être humain au moment où on va mourir. Ça, c'est une assistance, ne serait-ce que morale, qu'un être humain doit à un autre être humain. Et ne pas lui donner ça, alors qu'on peut le faire, alors qu'il n'y a aucun risque pour soi, eh bien, c'est une non-assistance à personne en péril. La loi n'impose pas à chacun d'être un héros et de sauver tous ceux qui souffrent et d'empêcher la mort. La loi ne prétend pas que nous sommes tous potentiellement immortels. Elle ne sanctionne pas l'absence d'héroïsme. Elle sanctionne l'égoïsme humain de celui qui peut faire quelque chose, même de simplement moral, et qui ne le fait pas. D'accord ?
Oui, vous avez souligné tout à l'heure sur la loi sur le funéraire de 2008... le fait que cette loi comporte la mention qu'on peut effectivement conserver des urnes dans des lieux de culte. Donc je suis responsable des crématistes de la Vienne. J'ai assisté récemment à une table ronde sur le thème service public et laïcité. Table ronde à laquelle participait monsieur le professeur Breuillat, professeur émérite à la faculté de Poitiers, et j'ai soulevé cette question. Par rapport à la laïcité, c'était un point de la loi qui quand même nous a beaucoup chagrinés, qu'aujourd'hui des élus de la République laissent passer un tel point sur une loi de la République. Et M. Breillat m'a répondu que ce point serait, qu'on pourrait légitimement, sur ce point, faire une saisie du Conseil constitutionnel. Alors je vous demande si cela est exact. J'en ai parlé à monsieur Le Lamaire et bon, il faudrait peut-être qu'on mette ça au point, peut-être pour faire évoluer la loi.
Alors, deux choses. Monsieur Le Lamaire, dont vous parlez, c'est le président de la Fédération française de crémation. On change tout doucement de sujet, mais finalement, on est dans la même logique. La thématique étant l'autonomie de la personne, soit par rapport à sa fin de vie, soit par rapport à sa dépouille mortelle. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité sur cet aspect de la loi de 2008 ? Techniquement, oui. Le but serait de demander au Conseil constitutionnel, mais est-ce que cette loi est bien conforme à la Constitution qui dit que la France est un État laïque, etc. Techniquement, enfin, théoriquement, c'est possible. Après, la procédure de question prioritaire de constitutionnalité suppose qu'il y a un contentieux au cours de lequel un des plaideurs soulève cet argument, et qu'on saisisse le Conseil constitutionnel pour qu'il règle la question de manière à ce que ce contentieux puisse ou être terminé ou poursuivre. Il faudrait donc d'abord qu'il y ait un contentieux sur cet aspect des choses. D'accord ? La loi 2008 n'ayant pas été transférée au Conseil constitutionnel a priori, au moment où elle avait été votée, le Parlement français n'a pas souhaité saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il l'examine, à l'initiative de M. Sueur, qui était le porte-parole d'un mouvement très, très proche d'un certain nombre de courants de pensée religieux, qui était à l'initiative de cette loi. Et surtout, alors ce qui est intéressant, c'est que l'exposé des motifs de la loi de 2008 a été de dire « Oui, mais vous vous rendez compte, on retrouve maintenant des urnes funéraires chez les brocanteurs ou sur la voie publique, etc. Il faut qu'on arrête ça. Il y a des dérives. » Premièrement, personne n'a jamais pu retrouver la trace d'un seul cas réel avéré, soit d'urnes chez un brocanteur. On peut en trouver des urnes vides comme objet d'art, parce que certaines ont été faites par des artistes, ni sur la voie publique. C'est ce qu'on appelle des légendes urbaines, mais c'est tellement facile de balancer que ça, personne ne va vérifier. Deuxièmement, ce qui est génial, c'est l'argument consistant à dire « il faut interdire telle chose parce que sinon il y aurait des dérives ». C'est l'argument qu'on nous sort tout le temps sur la législation sur la fin de vie. Vous vous rendez compte ? Il faut interdire parce que sinon il y a des risques de dérives. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? L'Ordre des médecins lui-même, dans son communiqué de presse, reconnaît qu'il y a des faits aujourd'hui de morts volontaires provoquées par des médecins dans leur pratique quotidienne en libéral. Il y a même eu un médecin, il est décédé maintenant, le professeur Schwarzenberg, pour assumer dans un ouvrage spécifique le fait que lui-même et plusieurs de ses confrères l'ont soutenu dans cette démarche, procéder à des actes. Donc, magnifique comme raisonnement, puisqu'on peut le renverser. Donc, on ne fait pas de loi parce qu'il y aurait des dérives. Aujourd'hui, il y a des dérives qui tomberaient sous le coup de la loi et l'Ordre des médecins ou les adversaires de toute législation ne les poursuivent pas. Donc, ils préfèrent la loi de la jungle, l'absence de texte et l'absence de contrôle, le pouvoir de fait de ceux qui sont derrière leur blouse blanche, dans les hôpitaux ou dans les cabinets, ils préfèrent un pouvoir de fait sans contrôle et sans loi, plutôt qu'une loi qui organise. C'est quand même dans une civilisation moderne quelque chose qui est assez surprenant, mais ça pourrait nous amener sur d'autres considérations. Il me semble, c'est pas que je veuille interrompre, mais il me semble que les gestionnaires des lieux vont nous dire à un moment ou à un autre que le temps est écoulé. 22h30. Allez, 22h30, on a le droit à une petite rallonge.
Si j'ai bien compris, vous sembliez dire qu'il était plus probable qu'on aille vers une législation permettant le suicide assisté plutôt que vers une autorisation de l'acte d'euthanasie. Est-ce que vous pourriez développer ce point ?
Concernant le droit de demain, celui qui pourrait être mis en acte. Premièrement, c'est délicat de lancer des supputations. Je ne suis pas voyant. Je ne suis pas extra-lucide et les choses peuvent bouger. Je dirais que ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas rester dans un statu quo. Pour les raisons que j'ai évoquées, d'abord, les cerveaux sont prêts à en débattre. Et puis, il y a plusieurs indices qui nous montrent qu'on va remettre sur l'établi la législation pour voir comment l'améliorer. Après, jusqu'où est-ce qu'on va aller ? Alors là, toutes les cartes sont sur la table, toutes les solutions sont envisageables. À minima, je pense que sur la question du suicide médicalement assisté, il y a un début de consensus qui semble surgir. C'est sur ce point que, y compris la commission SICAR, pourtant très frileuse, pour ne pas dire rigide, a laissé la porte ouverte à cette question. C'est également sur ce point que l'Ordre des médecins semble maintenant être consensuellement d'accord. Donc je pense que si on devait en rester au minimum, eh bien ça semble dans les rails, dans les tuyaux, prêt à être mis en acte juridique. La question, c'est de savoir si on va plus loin, si on va jusqu'à l'acte d'euthanasie, au sens strict du terme, parce que je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie sur les mots, ni les uns ni les autres ne l'utilisent, etc., c'est-à-dire la mort souhaitée ou demandée par un individu, mais donnée ou délivrée par un acteur tiers par rapport à la relation de soins. C'est possible. Je ne suis pas dans le secret des dieux, etc. Est-ce qu'on va y aller par étapes ? Et à ce moment-là, la loi Leonetti, bien qu'elle n'ait pas modifié les règles juridiques, aura été une première étape sur l'aspect débat et sur l'aspect pédagogie, réflexion. On pourrait avoir une étape, on pourrait l'imaginer, une étape suicide assisté, puis ensuite une autre, pourquoi pas. Est-ce qu'on va globaliser ? Je n'en sais rien. Si je peux me permettre la comparaison, elle vous paraîtra peut-être osée. C'est un peu comme sur la question du mariage pour tous, puis la question de l'adoption, puis la question de la procréation. Est-ce qu'on fait un paquet au risque que ce soit plus difficile à faire passer ? Est-ce qu'on le fait ? Là, il y a une question de logistique, de stratégie logistique, qui consiste, pour ceux qui sont dans la cabine de pilotage, à choisir le calendrier et le dosage de leurs actions. Et là, je ne suis pas élu, je ne suis pas dans le secret des cabinets des différents ministères, ni au Parlement. Je ne sais pas quelle tactique va être choisie. Mais je suis prêt à prendre les paris. Sur le suicide assisté médicalement, je dirais que le dossier est réglé. La question, c'est est-ce qu'on se limite à un premier texte pour valider ça avant d'aller plus loin, ou est-ce qu'on met tout le dossier sur la table au risque que ça soit plus compliqué, plus clivant sur le plan politique, professionnel, confessionnel, etc. Je ne sais pas. Mais la DMD a peut-être des informations beaucoup plus fines que les miennes.
Oui, il y a encore des médecins qui aujourd'hui pratiquent l'acharnement thérapeutique. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette question, sur la responsabilité qui est la leur dans cette hypothèse ?
Alors, la question est très simple et elle est réglée depuis très longtemps. Le médecin qui ferait aujourd'hui un acte médical, quel qu'il soit, sur une personne, alors que cet acte n'a aucune utilité thérapeutique, ou plus d'utilité thérapeutique, pourrait être poursuivi juridiquement, pour peu que le procureur de la République soit informé, poursuivi pourquoi ? Pour violence volontaire sur le corps d'autrui. Tout acte médical doit répondre à plusieurs conditions pour être licite, pour être conforme au droit. Il doit être fait par quelqu'un de diplômé, il doit être fait sur quelqu'un de consentant, et ça ne suffit pas. Il faut que, outre ce diplôme, ce consentement, ce soit un acte à finalité, à objectif thérapeutique. C'est pourquoi il a fallu une loi pour pouvoir faire des actes expérimentaux. La loi de 88 sur la recherche biomédicale. Si on veut introduire une nouvelle molécule dans le corps de quelqu'un, pas pour le soigner, mais pour tester la molécule, voir l'effet sur le métabolisme, il a fallu une loi spéciale parce qu'on ne pouvait pas le faire avant. On ne pouvait pas faire de tests sur les individus. C'est pourquoi en 75, il a fallu une loi sur l'IVG, parce que l'IVG n'est pas un acte thérapeutique. Il y a des avortements thérapeutiques dans certains cas, et ça, on les faisait déjà avant 75, où il s'agissait de sauver une femme enceinte qui était en train de mourir du fait de cette grossesse, eh bien, on pouvait faire un avortement qu'on appelait un avortement thérapeutique. Mais ce qu'on ne pouvait pas faire, c'était un avortement de choix, de libre choix de la femme. Il a fallu une loi en 75, parce que ça donnait une base juridique stable à cet acte. Aujourd'hui, le médecin qui ferait un acte médical sur le corps d'une personne sans utilité thérapeutique, eh bien, commettrait une violence volontaire sur son corps. Il n'y a pas d'info. Alors, vous allez me dire, mais j'ai ouvert un code pénal, je n'ai pas trouvé le mot acharnement. Oui, le code pénal. Mais alors, là, c'est intéressant. Ça va nous permettre de revenir à la question des mobiles. Le code pénal ne sanctionne pas l'acharnement, mais il ne sanctionne pas non plus le fait de crever un œil, le fait d'ouvrir un ventre, de couper un pied, de brûler une fesse. Il sanctionne les violences homicides, les violences entraînant des blessures et une ITT de plus de 8 jours ou de moins de 8 jours. Point. Il hiérarchise, non pas si c'est des violences faites avec un couteau, un pistolet, un laser ou de l'acide. Violence homicide, violence entraînant une ITT de plus de 8 jours ou une ITT de moins de 8 jours. Et pour les violences homicides, il distingue ni le mode opératoire, que l'on tue autrui avec une arme, avec à main nue ou avec du chlorate de potassium, ou il distingue pas les modes opératoires, il distingue pas non plus, dès lors que l'acte homicide est volontaire, en fonction des mobiles. Que l'on tue par vengeance, par cupidité, par bêtise, par jeu, par choix libidineux, ou que l'on tue par compassion, c'est indifférent sur le plan pénal. Les mobiles sont indifférents dès lors qu'on a un acte volontaire. Donc, parfois, on entend parler d'homicide compassionnel, etc. Oui, mais les mobiles subjectifs de celui qui fait un acte sont indifférents sur le plan de l'analyse juridique de la situation. Ça, c'est l'aspect technique. Après, sur l'aspect procédural, un homicide, pour revenir à cette question de l'homicide, qui est qualifié de crime, un homicide volontaire, est jugé par la cour d'assises. Bien, si on va jusque-là. La cour d'assises, elle est composée de 3 magistrats et de 5 jurés populaires. Avant, c'était 9, depuis 2010, c'est 5. C'est-à-dire des citoyens. Et en matière d'homicide, les citoyens peuvent très bien être, les citoyens jurés peuvent très bien être sensibles à la question des mobiles. La dernière affaire qui est passée devant une cour d'assises en 2006 pour des faits d'euthanasie, affaire Chantal Chanel en Dordogne, on a un médecin libéral qui fait une prescription de 3 produits dont on sait que le cocktail produit le décès, pour une vieille dame en situation terminale qui l'a demandé. Et on a une infirmière libérale qui accepte de perfuser les produits en connaissance de cause. La vieille dame décède, un des proches porte plainte pour homicide. Comment ça a été traité par la cour d'assises? D'abord, l'infirmière a été acquittée, sans motivation de la décision. La cour d'assises a acquitté, dans le secret du délibéré. Quant à la femme médecin, elle a été reconnue coupable d'homicide volontaire et condamnée à la peine la plus faible possible dans cette hypothèse, c'est-à-dire 2 ans avec sursis. 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Elle est coupable d'homicide, mais elle n'a pas eu à faire un jour de prison. Choix de la cour d'assises, qui a bien évidemment été sensible au fait que les mobiles, pour reparler d'eux, étaient absolument pas crapuleux, absolument pas négatifs, étaient compassionnels. Juridiquement, c'est un meurtre, c'est donc la cour d'assises. Après la cour d'assises, elle apprécie, les jurés, c'est-à-dire les citoyens, apprécient en leur âme et conscience.
En France, les médecins prêtent le serment d'Hippocrate, dans lequel ils s'engagent à ne jamais administrer de poison à leurs patients. Mmh. Donc, en cas d'évolution de la loi, quelle que soit la solution retenue, comment concilier cette... est-ce que ça veut dire que le serment d'Hippocrate disparaît tout simplement ?
Alors, deux, trois remarques juridiques. Là encore, je ne parlerai qu'en tant que juriste. D'abord, quelle est la valeur du serment d'Hippocrate ? C'est un rituel folklorique propre aux études de médecine. Ça n'a aucune valeur juridique. Moi, je parle en tant que juriste. Est-ce qu'on peut reprocher juridiquement à un médecin, on peut lui faire un procès pour manquement au serment d'Hippocrate ? Non, on est dans le symbolique. C'est pas anodin, c'est pas neutre, mais on est dans le symbolique, pas dans le juridique. Ce qui s'impose au médecin, c'est les lois, c'est son code de déontologie qui est un décret qui est maintenant dans le code de la santé publique. Ça, c'est du droit. Loi et autres textes, hein, loi, décret, etc. Mais serment d'Hippocrate, c'est du folklore. Alors, ils n'aiment pas quand on leur dit ça, parce que ça fait des années qu'on leur fait des panégyriques d'Hippocrate, etc. Bon. Remarque contextuelle maintenant. Dans le serment d'Hippocrate, d'ailleurs, il y a plusieurs versions du serment d'Hippocrate. On ne sait pas trop laquelle. Il y a la version dite de Montpellier, la version dite de Padoue, etc. Mais en supposant même qu'on se mette d'accord sur une version, il y a un point commun, qu'au moins à tous les serments d'Hippocrate qu'on a retrouvés dans les différentes traductions, c'est que tous les médecins devaient jurer à l'époque d'honorer Esculape, etc. Bon, honorer Esculape, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les médecins français soient très au point. Mais surtout, ils s'interdisaient de donner un poison homicide et de donner un pesser abortif, c'est-à-dire un produit entraînant l'avortement. D'accord ? Tous les médecins qui ont fait médecine et qui ont soutenu leur thèse avant 75 ont juré devant leur père d'honorer Esculape, etc., d'honorer leurs confrères et de ne jamais donner de pesser abortif. Bah, la loi de 75 est intervenue. Est-ce qu'ils ont tous été mis en prison ? Non. Est-ce qu'ils ont été foudroyés ou radiés de l'ordre ? Non plus. Parce que heureusement, depuis 1789, il a été décidé en France que les règles de droit, elles venaient plus du ciel, elles venaient plus du roi, elles venaient du peuple qui fait la loi. Et qui fait la loi peut la modifier, peut la transformer, peut la faire évoluer. Et les médecins, ils sont parfois d'accord, parfois pas d'accord. Comme chaque praticien peut avoir des convictions, des avis sur sa technique, sur sa pratique, sauf que ce n'est pas le praticien qui fait la règle. La règle, c'est la représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement français qui fait la règle. D'accord ? Donc, effectivement, ça peut heurter des convictions, ça peut heurter des rituels, des symboles, mais juridiquement, eh bien, la loi peut changer et les médecins devront alors s'adapter au nouveau cadre juridique. Ce qui est prévu, on peut comparer avec la Hollande et la Belgique, c'est que dans ces pays, dans l'hypothèse où on rencontre une situation qui permet éventuellement l'acte euthanasique, eh bien, les médecins dont les convictions personnelles sont en contradiction avec la démarche peuvent exciper de leur clause de conscience. On peut le prévoir. On l'a fait en France pour l'IVG. On a prévu la clause de conscience. On l'a prévu en 2001 en matière de stérilisation contraceptive. L'acte de stérilisation est aujourd'hui licite en France, dans un cadre textuel précis. Mais les médecins qui ne veulent pas faire peuvent dire « moi, je ne fais pas, clause de conscience, allez voir un de mes confrères qui le fait ». On pourrait imaginer tout à fait, pour respecter les convictions personnelles de certains médecins, eh bien que cet acte soit éventuellement couvert ou protégé par une clause de conscience. Ça, c'est une technique juridique qui est bien au point. Le droit, et j'insiste là-dessus parce que je ne voudrais pas que... Et puis je vais faire la conclusion, comme ça on aura terminé, et on ne redonne pas la parole. Une toute petite dernière, puis je fais une conclusion.
Il y en a une qui m'inquiète, c'est...
Alors, c'est une grande question de santé publique. Il y aurait des produits, je reprends la question, des produits qui pourraient être prescrits par des médecins hospitaliers, mais pas par des médecins généralistes. Il y en a déjà. Et il y en a même qui ont changé de statut, qui étaient d'abord prescription hospitalière, puis qui sont devenus, c'était le cas des trithérapies, qui sont devenues ensuite prescription généraliste. Le Subutex, pendant longtemps, était prescription hospitalière, mais ça nous amènerait trop loin. C'est déjà le cas et c'est pas gênant, ça peut évoluer. Une conclusion générale et une citation, et on en aura terminé, et on sera quasiment au terme de notre occupation, de notre bail d'occupation de la salle. Une conclusion générale, c'est que, je l'ai évoqué tout à l'heure, je le reprends, c'est une formule de M. Boutros-Ghali, le droit n'est pas innocent de la société qui le fait naître. Le droit, c'est rien, le droit, c'est un outil. Il faut pas sacraliser ni la loi, ni le droit. Le droit, c'est la règle du jeu en société, et qui le fabrique ? Nous. pas vous, pas moi, pas François Hollande, pas le juge gentil, pas qui vous voulez, pas TF1, c'est nous collectivement au travers du Parlement français qui représente la souveraineté populaire. Donc ça, ça me paraît important de le dire, le droit... Il est fait par les hommes pour les hommes, pour les hommes vivants, pour les hommes vivants de leur siècle. Il n'est pas fait pour il y a 1000 ans, ni pour dans 1000 ans. Il est fait pour une société donnée. Ce qui explique d'ailleurs que dans tous les pays du monde, il n'y a pas le même droit à un instant donné. Et même dans les États fédéraux, on le voit bien aux États-Unis, il peut y avoir des législations sur certains points qui sont différentes selon que vous franchissez tel fleuve ou telle frontière. Le Dakota est en train de revenir en arrière sur l'avortement. Quand la Californie veut légiférer sur le cannabis pour tous, bref, il y a des législations différentes parce qu'il y a des sociétés différentes. C'est un principe démocratique qui veut que, eh bien, à un instant donné, une communauté puisse faire évoluer son droit pour son moment, pour sa population. Ça, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas retomber dans une logique médiévale, féodale, qui consisterait à penser qu'il y aurait des règles suprahumaines, qu'elles soient religieuses, qu'on l'appelle droit naturel, qu'on appelle ça droit romain, des règles intouchables qui seraient sacrées. Intouchable, c'est un beau film, d'accord, mais intouchable sur le plan du droit, moi, ça ne me parle pas en tant que juriste positiviste contemporain. Et enfin, une petite citation qui me semble aller avec la logique de l'ADMD. L'ADMD est une association militante qui, dans son intitulé, montre son orientation qui est de faire évoluer la pratique et la loi sur la question de la fin de vie. Et donc, comme toute démarche militante, elle peut être analysée, critiquée, cautionnée, soutenue. Ça, ce n'est pas mon rôle en tant que juriste. Mais une petite citation d'un célèbre auteur anglais que j'aime beaucoup, enfin décédé maintenant, anglo-américain, George Bernard Shaw, disait la chose suivante. Il disait « Les hommes raisonnables s'adaptent au monde. Les hommes déraisonnables refusent de s'adapter au monde. Donc, tout progrès de la société dépend des gens déraisonnables. J'espère qu'on a tous été déraisonnables ce soir. Merci pour votre patience.
Vous voyez que je ne faisais pas de la publicité mensongère en vous annonçant une superbe conférence.